Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
We just have too much stuff that's being produced.
Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable. Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition de la mode et du luxe. Outils tech, conseils de marque engagés ou en transformation, partage d'expertise, ce podcast est conçu comme une bibliothèque de solutions concrètes, centralisées et immédiatement disponibles pour guider l'industrie vers un développement durable. Je vous donne rendez-vous tous les 10 jours sur la plateforme d'écoute de votre choix. Vous abonner à la chaîne présente le double avantage d'être notifié à la sortie d'un épisode et de nous soutenir en un seul clic. Nous avons également une newsletter business mensuelle à laquelle vous pouvez vous inscrire sur thegoodgoods.fr. Bonne écoute! La mode est-elle une discipline trop frivole pour faire l'objet de recherches universitaires? C'est la question que s'est posée notre invitée il y a des années, avant d'en faire non seulement son métier, mais aussi une filière d'études qu'elle a créée de toutes pièces. Le champ des possibles est en réalité infini. Qu'il s'agisse du cerveau et des choix des consommateurs et des consommatrices, de la corrélation entre matérialisme et insatisfaction, des leviers d'action contre l'éco-anxiété, de la souffrance des mannequins et de l'évolution de leur métier, le docteur Aurore Bardet est psychologue de la mode et chercheure enseignante, diplômée du London College of Fashion. Elle s'est donnée pour mission de rendre la mode un peu plus positive grâce à ses recherches. Happée par l'aspect sombre et à la fois beau du secteur de la mode, elle a choisi un terrain large d'expérimentation pour étudier aussi bien les marques que les citoyens, le visible et l'invisible, les mannequins et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Aurore partage ses connaissances à la Burgundy School of Business avec ses élèves en marketing et pour notre plus grand plaisir, dans une conversation riche et fascinante au sein de cet épisode. Place à elle. Bonne écoute!
Eh bien, écoutez, sans plus attendre alors, je vais laisser mon bras droit Coraline commencer ce podcast puisque c'est grâce à elle qu'on a la chance de vous recevoir sur Onward. Donc, bienvenue. Coraline, c'est à toi.
Merci. Ben, bonjour Aurore, merci beaucoup de pouvoir participer à cet épisode. Je vous ai rencontré sur LinkedIn, à vrai dire, dans une vidéo où vous expliquez ce que c'était que la psychologie de la mode et ça a piqué ma curiosité. Donc, je suis allée voir vos travaux ensuite et notamment, je suis tombée sur votre recherche concernant l'autoprésentation en ligne idéalisée, en particulier sur le réseau social Instagram. Mais j'ai vu aussi que vous avez fait plusieurs études, notamment sur le mannequinat qu'on a étudié et sur lequel on a rédigé un article sur The Good Goods. Et donc, on a décidé avec Victoire que ça pourrait être tout à fait pertinent de vous recevoir sur notre podcast et que justement observer la mode sous un autre angle que la production, le textile, l'innovation, ça pouvait être particulièrement intéressant. Donc je vais vous laisser commencer par vous présenter.
Mais tout d'abord, merci beaucoup pour votre invitation. C'est votre podcast est un des podcasts que j'écoute régulièrement et que je trouve vraiment créatif, innovant, fascinant. Donc je suis très heureuse et très fière d'être parmi vous aujourd'hui. Rapidement, je suis psychologue de formation. J'ai une thèse en psychologie cognitive et neurosciences. Moi, j'ai fait une thèse parce que je voulais enseigner à des adultes. Donc, j'étais pas tellement chercheur à la base. J'étais vraiment enseignante en université. Et j'avais fait des travaux de recherche. Et j'enseignais en psychologie cognitive. J'ai beaucoup de recherches dans le mal des transports, par exemple. Et puis, il y a 8 ans, je commençais un peu à m'ennuyer, un peu à m'essouffler, alors que c'était vraiment le début de ma carrière, normalement. Et je suis tombée par hasard sur une offre d'emploi du London College of Fashion, donc une des meilleures universités de mode au monde, et qui recherchait un psychologue pour justement développer, faire naître quelque chose, un domaine qui s'appelait la psychologie de la mode. Et moi, j'ai trouvé l'idée complètement farfelue, et je reste polie, en me disant que je ne voyais pas trop comment on pouvait lier la psychologie, qui était pour moi quelque chose de très sérieux, qui était une science, qui était quelque chose pour lequel j'avais beaucoup travaillé. On rigolait pas avec la psychologie, c'était quelque chose, voilà, il y avait des statistiques, de la biologie, c'était quelque chose de très sérieux. avec quelque chose qui, pour moi, la mode, c'est quelque chose de tellement frivole et de quelque chose d'inintéressant, de quelque chose pour les belles, en fait. Et je ne me considérais pas comme parmi les belles. Et c'est ça qui m'a intriguée, en fait. Et puis, c'était il y a 8-9 ans. Puis en fait, quand je comprends pas, moi j'aime bien comprendre. Donc en fait, en tant qu'enseignant-chercheur, je me dis, tiens, c'est marrant parce que t'aimes pas la mode, tu sais que c'est pour les belles, que tu sens pas très belle. Puis en fait, je me suis dit, mais au fait, c'est quoi la beauté? Et puis au fait, c'est quoi la mode? Et j'ai commencé à me renseigner sur ce que c'était la mode. J'ai trouvé un univers encore plus noir, encore plus glauque que ce que je pensais trouver. Et je me suis dit, tiens, c'est drôle parce qu'en fait, ça m'a l'air bien noir tout ça, ça m'a l'air bien sombre. Et puis, moi, mon travail de psychologue, c'est de rendre les gens heureux, en tout cas aussi heureux qu'ils peuvent l'être. Je me dis, tiens, et si avec tes connaissances de psychologie, tu faisais ce mastodonte de non-éthique, quelque chose d'un peu mieux, d'un peu plus positif, d'un peu plus... est-ce que c'est si frivole que ça, la mode? Puis en fait, ça fait 8 ans que je travaille dans ce domaine, j'ai tout modifié, mes enseignements, je suis devenue une vraie chercheuse, parce que maintenant, je suis vraiment passionnée par la recherche en psychologie de la mode. Et puis avec mon petit cerveau et mes petits papiers, mes petits enseignements, j'essaye de rendre la mode, l'industrie de la mode, un peu plus belle, un peu plus ouverte à tous et puis un petit peu plus éthique.
Ok, c'est super intéressant. Mais du coup, donc vous avez commencé dans une belle institution. Est-ce que vous pouvez revenir un peu plus précisément sur votre parcours, ce qui vous a mené vers la mode spécifiquement?
Eh bien, quand j'ai vu ce poste au London College of Fashion, j'ai vécu 15 ans en Angleterre, donc j'ai travaillé dans plusieurs universités après ma thèse. J'ai fait ce qu'on appelle des contrats post-doc, donc c'est des contrats où on fait de la recherche, on est des bébés chercheurs. Donc j'ai fait un contrat à Lausanne, à l'EPFL, ensuite un contrat à l'université de Manchester, et après j'ai fait un contrat où j'étais enseignant-chercheur et chef de département dans une université qui s'appelle Open University, où là, je gérais une licence de psychologie. Je formais des professeurs, j'enseignais à des étudiants et puis je faisais des recherches. Et puis, à la suite de ce poste à Open University, je suis tombée enceinte et ça a un peu tout son importance puisque c'est pendant mon arrêt, mon congé maternité où j'étais en... assez fatiguée, vu que j'avais des jumeaux, où j'ai vu justement cette offre du London College of Fashion, et c'est pour ça, je pense que ça m'a, étant très très fatiguée, ça m'a encore plus intriguée. J'étais tellement fatiguée, je revenais toujours à cette offre en disant, c'est pas possible quand même, psychologie de la mode, c'est quand même, ça ne peut pas exister. Donc je pense qu'en fait, c'est cette côté innovant de cette offre d'emploi et cette énorme fatigue qui m'a fait vraiment mettre le point dessus, en fait. Je voulais pas lâcher le truc. J'ai postulé au London College of Fashion, parce que j'ai été tout de suite, comment dire, agrippée par ce côté sombre et beau à la fois de l'industrie de la mode. C'était complètement dichotomique pour moi et ça n'avait pas de sens, en fait, cette dichotomie, ce côté sombre et ce côté magnifiquement beau à la fois. Et ça m'a intriguée et je me suis formée très, très vite à la mode. Et j'ai commencé il y a 8 ans au London College of Fashion. On m'a demandé de créer une licence, un bachelor, psychologie de la mode. Donc, c'est aujourd'hui encore la seule licence au monde qui enseigne et la psychologie appliqué dans un contexte d'industrie de mode. Donc, c'est très orienté marketing de mode, management de mode, et avec un gros, et ça, c'est ma petite touche personnelle, on ne me l'a pas demandé, c'est moi qui l'ai mis, une grosse touche de développement durable également. Donc, pendant 3 ans, ces étudiants sont formés. À ce jour, ils ont, comme j'ai commencé il y a 8 ans, ils forment 25 étudiants par an dans le bachelor. On a également développé un master qui accueille 30 étudiants par an, un master psychologie appliquée à la mode. Et puis, je suis restée 5 ans au London College of Fashion. Et puis, je suis franco-anglaise, donc mon côté français a fait que j'ai voulu quitter la Covid, le Brexit, Boris Johnson, pour me retrouver dans mes terres bourguignonnes. Et donc, j'ai postulé à l'école de commerce Burgundy School of Business à Dijon, et qui est une école de commerce très particulière parce qu'elle est très bien classée dans un rang national. Mais la particularité de BSB, c'est que on a ce petit truc innovant. Et en fait, quand je suis arrivée avec mes idées de psychologie de la mode, de parler de diversité, de parler de RSE dans une industrie qui est initialement, foncièrement non éthique, BSB m'a ouvert les bras. Et donc, depuis 2 ans maintenant, je suis professeure associée en marketing. Alors ça, c'est mon titre, mais j'enseigne principalement de la psychologie, du RSE. Mon laboratoire de rattachement est un laboratoire RSE. Et je forme des futurs experts en marketing, mais je les forme d'un point de vue qu'ils pensent RSE, et notamment qu'ils tournent n'importe quel business ou industrie de mode qui initialement a un business model qui est vraiment basé sur la surproduction, la surconsommation, de renverser la machine et de mettre un petit grain de sable qui va complètement renverser la machine et développer des idées de mode durable. Généralement, ils n'ont pas besoin de moi parce que j'ai de plus en plus d'étudiants qui viennent me voir et qui sont déjà très avancés dans leur connaissance RSE, qui veulent développer des business RSE.
Alors moi, j'ai à peu près 17 sujets nouveaux que j'ai envie de déplier suite à cette première réponse. Merci beaucoup. La première question que je me pose, c'est depuis 8 ans que vous y êtes, finalement, est-ce que vous considérez toujours que la mode est un sujet superficiel ou est-ce un sujet profond ou est-ce les deux ?
C'est un des sujets les plus sérieux que j'ai abordé. Par exemple, mon sujet de thèse, qui est très très loin de la mode, la problématique pour laquelle on m'avait payé, c'était d'étudier une illusion de l'oreille interne que les pilotes de chasse avaient pour leur sauver la vie. Donc vraiment, c'était un sujet de thèse, on parlait de vie ou de mort, on parlait de crash d'avion, et pour moi, c'était très très sérieux et on rigolait pas avec ça. Et bien, avec la mode, j'ai ce même sentiment-là. C'est vraiment une question... Parfois, mes travaux de recherche parlent de vie ou de mort, en fait. Quand, par exemple, vous parliez de mes travaux sur le mannequinat, là, on parle de vie ou de mort. Là, on parle de personnes qui peuvent mourir sur les défis de mode. Je trouve que la mode est tout sauf frivole. C'est vraiment, je me suis vraiment éloignée de ce côté un peu que j'avais adolescente, de dire oh, c'est tellement pas important. Et en fait, le nombre de personnes qui viennent me voir ou qui m'écoutent en disant oh, tu fais de la mode, moi j'aime, ça m'intéresse pas la mode. À chaque fois, là, je leur donne la même réponse en disant t'es pas tout nu, t'es habillé, ouais. Donc tu aimes la mode. À un moment, tu as pris une décision de mettre ce pull, cette robe, ce pantalon. À un moment, et cette prise de décision, tu l'as peut-être fait, pas forcément en réfléchissant, en disant waouh, ce pull, il est trop beau, mais tu as mis ce pull pour une raison. Et si tu me dis la mode, je m'en fous, t'es pas tout nu. Donc en fait, tu t'en fous. Enfin, à un moment, t'as eu une prise de décision. Et cette prise de décision, ce pull, s'il vient de la fast fashion ou s'il vient d'un. Où ça fait 3 générations qu'il y a ce pull et que tu le portes, même si tu le fais pas en âme et conscience, par exemple pour être écolo, t'as pris cette décision. Donc non, je trouve que la mode, c'est un des... En tant que chercheur, je dis souvent c'est un outil, parce que pour moi, c'est un outil de bien-être, un outil d'affirmation de soi, un outil de parole également. Et puis c'est un outil qui est absolument merveilleux comme très dangereux.
Et au-delà du choix pour soi, il y a le rayonnement du vêtement et ce qui renvoie à l'autre... à travers notre image. C'est vrai que les impacts amont et aval sont multiples et particulièrement insoupçonnés, en fait, par justement le commun des mortels qui pense que le vêtement, c'est pas vraiment un sujet, quoi.
Exactement, c'est ce que je montrais dans... Enfin, c'est ce que j'ai voulu un peu fouiller dans cet article que vous avez mentionné sur les réseaux sociaux. Il faut moins de 10 millisecondes pour que n'importe qui, une personne, se fasse un avis sur une autre personne. Avant que cette deuxième personne n'ouvre la bouche, en moins de 10 millisecondes, on sait si on va apprécier ou pas cette personne. Et je dis souvent à mes étudiants, quand je rentre dans la classe, vous ne me connaissez pas, vous n'avez jamais entendu ma voix, je fais juste rentrer, je rentre dans la classe, donc vous me voyez marcher, c'est tout. Je n'ai pas remis mes cheveux, je n'ai pas fait de manière, j'ai pas fait le langage corporel est très très minimaliste en fait. Et bien rien que ces 10 millisecondes, vous savez si vous allez m'apprécier en tant que personne. Et du coup, ça va découler sur si vous allez m'apprécier en tant que prof, si vous allez aimer mon module. Ça va même, ces 10 millisecondes découlent même sur la note qu'ils me donnent à la fin en tant qu'étudiant quand on note le module en disant j'ai bien aimé, j'ai pas aimé. Ces 10 millisecondes, la note est déjà posée en fait dans leur tête, inconsciemment, mais elle est déjà posée.
Est-ce que vous pourriez nous définir la psychologie de la mode ?
Oui, la psychologie de la mode, c'est l'utilisation des théories psychologiques, que ça soit la psychologie clinique, la psychologie sociale, la psychologie cognitive, appliquée dans l'industrie de la mode. Là, je ne peux pas vous donner une définition plus générale que ça. Parce que, par exemple, la psychologie clinique, c'est la compréhension des symptômes qu'une personne peut développer. Donc, ça va du stress ou d'une baisse d'estime de soi à même de la psychopathologie, de la schizophrénie, de la bipolarité, des choses qui sont symptomatiques, en fait, qui sont des maladies mentales, même si j'aime pas ce terme, mais en tout cas, j'appelle ça des conditions mentales, en passant par la psychologie sociale. La psychologie sociale, c'est l'étude de l'individu au sein d'un groupe. A, la psychologie cognitive, donc c'est la psychologie qui étudie le comportement et la façon de penser. Donc vous voyez déjà, là, il y a trois différents types de psychologie. Donc quand je vous disais, c'est l'application des théories psychologiques dans l'industrie de la mode. L'industrie de la mode, c'est encore plus vaste que la première partie de définition. Donc, puis vous voyez, c'est pour ça que dans mes travaux de recherche, je pars un peu, pas dans tous les sens, mais en fait, je peux aller étudier la condition de travail des mannequins, ce qui est la psychologie du travail, qui fait partie de la psychologie sociale. Je peux aussi également travailler sur l'étude de leur bien-être, qui est de la psychologie positive, qui est un nouveau type de psychologie qui travaille sur le bien-être, le bonheur, l'épanouissement de la personne. Je peux travailler sur je travaille sur l'individu en tant que psychologue, donc je travaille avec par exemple des top modèles. J'ai travaillé aussi avec des professionnels de la mode pour voir s'ils comprenaient bien les conditions de travail et le manque de bien-être des top modèles. Je travaille sur les consommateurs, les consommatrices que l'on voit, ce que j'appelle les consommateurs visibles, les consommateurs invisibles, ceux qui consomment la mode et qu'on ne voit pas. Généralement, c'est ceux qui ne ressemblent pas aux mannequins, donc les vieux. Donc être vieux dans l'industrie de la mode, c'est d'avoir plus de 30 ans. Donc, passé 30 ans, on ne se voit plus dans la mode. Je ne sais pas si ceux qui nous écoutent, généralement les femmes, je sais que moi, le jour de mes 30 ans, on m'a offert une crème anti-rides. Une amie m'a dit, ben maintenant, c'est 30 ans, c'est à cet âge-là qu'il faut commencer à en mettre. Et quand on regarde l'industrie de la mode, c'est le message. 30 ans égale vieux. Donc, je ne vous parle même pas des 40, 50, 60 ans. Généralement, ce sont des personnes blanches. Quand on regarde l'industrie de la mode et quand on regarde les défis de mode, la majorité des mannequins sont blancs. Donc, quand on n'est pas blanc, où est-ce qu'on est? On ne se voit pas. Et pourtant, on consomme de la mode. Par exemple, dans la formation des coiffeurs en France, on commence à voir l'introduction de modules de comment coiffer des cheveux afro. Mais j'ai des étudiantes, par exemple, qui attendent de rentrer chez elles en dom-tom pour se faire coiffer. C'est-à-dire qu'elles attendent le rendez-vous annuel. Elles doivent attendre un an pour se faire coiffer puisqu'elles ne trouvent en province aucun centre de coiffure qui peuvent coiffer leurs cheveux. Je parle même pas des handicapés physiques, en tout cas ceux qui ont une condition physique qui n'est pas comme la majorité des gens, ceux qui ont même une couleur de cheveux comme les roux. On voit pas beaucoup de roux en fait sur les podiums. Je parle même pas des plus size, donc les tailles quand on regarde vraiment les top modèles plus size, ils font un bon 42. Non, un plus size à partir de 46. Donc en fait tous ces consommateurs invisibles, en fait moi je travaille aussi avec eux. Donc l'industrie de la mode, c'est vraiment tous ceux qui s'habillent. Donc, en fait, tout le monde. Vraiment tout le monde.
Ce qui est impressionnant, c'est la multiplicité des thématiques et des sujets de recherche versus l'âge de la discipline, finalement, le faible historique et la faible disponibilité de la discipline dans le monde, puisque vous disiez que c'est la seule formation au monde et dispensée par le London College of Fashion. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu un historique de la discipline en France et ailleurs, et peut-être finalement, quels sont les débouchés dans cette industrie des métiers auxquels sont formés ces jeunes qui sortent de licence et master?
L'historique, vraiment, c'est drôle parce qu'on est en train d'écrire un livre avec mes collègues et on a commencé par ce chapitre historique parce que beaucoup de gens disent, quand vous tapez, si vous googlez psychologie de la mode, généralement en anglais, vu que c'est la majorité de la psychologie de la mode est née en Angleterre, si vous tapez fashion psychology, vous allez voir plusieurs professionnels qui sont très doués dans leur domaine, mais qui disent « j'ai créé », je pense que c'est un petit truc marketing, dire « j'ai créé ce domaine ». Mais en fait, non, la personne qui a créé, qui a pensé à lier la psychologie et la mode, en fait, c'est un homme, et il s'appelle William James. Et William James, en fait, c'est aussi la personne qui a créé quelque chose qui s'appelle la psychologie. Et en fait, il y a quelques siècles auparavant, il y avait la philosophie, donc il y avait de la recherche, en tout cas des débats philosophiques, il y avait des philosophes qui faisaient avancer la vision sur la vie, etc., ce qu'on connaît aujourd'hui, la philosophie. Et puis un petit groupe de philosophes s'est séparé, en tout cas s'est mis un peu de côté, soit en Allemagne ou soit aux États-Unis, et ils ont développé une nouvelle entité de la philosophie qu'ils ont appelée la psychologie. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la psychologie, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Et dans ces deux écoles, l'école allemande et l'école américaine, le père de la psychologie moderne, qui faisait partie des fondateurs américains de la psychologie, qui s'appelle William James, a fait un écrit de traité de la psychologie. Et dans ce traité, il a écrit cette phrase stipulant que notre moi est composé de tout ce qu'on possède. Notre voiture, notre maison, nos habits. Et en fait, c'est le premier à dire, les habits, ce n'est pas frivole, ce n'est pas quelque chose qu'on utilise pour se couvrir, c'est quelque chose qui fait partie de nous et qui nous définit. La psychologie de la mode était née. Pas en des termes précis, mais en tout cas, c'est le premier à avoir posé le doigt sur la mode et la psychologie peuvent aller ensemble, ça nous définit. Et après, il y a un énorme trou, mais une énorme abysse où rien n'a été fait dans le domaine. On voit quelques petits papiers, par exemple, on a un papier qui est très très connu dans le milieu de la psychologie de la mode, qui a été publié en 2012 par deux psychologues sociaux. On voit certains psychologues qui se sont dit « Ah tiens, qu'est-ce qu'on fait si on change la mode ?» Ou « Ah tiens, par exemple, des psychologues évolutionnistes qui étudient la biologie et la psychologie, on dit « Tiens, et quand leurs femmes ont leurs règles, est-ce qu'elles s'habillent différemment ?» Donc des fois, il y a des petits sauts de puce, en fait, de chercheurs qui sont dit « Ah tiens, ça serait drôle. » Et puis après, tout a commencé dans les années 2012-2013, quand une psychologue a commencé, d'un point de vue pédagogique, à développer le master de psychologie pour les experts en mode. Donc c'était vraiment des cours de... C'était un an de cours en psychologie où en gros, on expliquait ce que c'était la psychologie, ce que sont les différents types de psychologie et qu'on leur apprenait comment lier les deux. Donc c'était un an de cours, donc c'était... Les étudiants étaient tous des professionnels de la mode, étaient tous intéressés par la psychologie mais n'avaient pas eu de formation de psychologie. Et moi, je suis arrivée en 2016 pour faire la licence. Et donc là, c'était le master, mais vraiment étalé sur 3 ans. Donc là, c'était vraiment des étudiants qui venaient soit avec un intérêt pour la mode, soit avec un intérêt pour la psychologie. Et moi, je les formais en licence. Ce que les étudiants savaient faire à la fin des 3 ans de licence ou à la fin de cette année de master, c'était cette logique de lier la psychologie et la mode. Je les formais à la recherche. Donc j'ai formé vraiment, j'étais très pointilleuse sur le fait qu'ils pouvaient faire de la recherche en qualitatif et en quantitatif, donc soit avec des mots, des entretiens individuels, ou soit avec des chiffres. Ils faisaient beaucoup de statistiques, par exemple. Et je leur apprenais tout type de psychologie, toujours appliquée à la mode, et tout type de mode. Donc en fait, à la fin de ces 3 ans, il n'y a pas de... Aujourd'hui, si vous tapez métier psychologue de la mode, ça n'existe pas. Généralement, on me dit, mais Aurore, vous êtes la seule psychologue de la mode au monde. Alors, non, de toute façon, on n'est jamais seul dans un domaine, on est toujours regroupé. Mais en fait, oui, je suis la seule à pouvoir mettre psychologie de la mode ou expert de la psychologie de la mode. Des fois, je change en fonction de mes signatures, mais parce que je suis enseignant-chercheur et que oui, moi, j'enseigne et je recherche la psychologie de la mode. Et il y a d'autres chercheurs qui sont en train de se former à ça, mais sinon, le métier en tant que tel n'existe pas. Parce qu'en fait, on les forme à plein de métiers. Par exemple, ils peuvent faire un métier qu'on appelle data analyst, donc analyste de données, si je suis bien en français. Ils peuvent faire du qualitatif, du quantitatif. Ils peuvent écrire, je les forme aussi à l'écriture. Donc, certains font du journalisme. Certains partent en master la psychologie de la mode est une base à leur CV, donc certains ont fait du droit après, certains ont fait de l'économie. En fait, c'est plus une façon de penser plutôt qu'un job en lui-même, en fait.
Alors, là aussi, j'ai plein de questions. On va revenir sur la partie data et l'impact de vos études. Mais avant ça, je voudrais revenir sur l'historique. Moi, j'ai pas une très grande culture dans le domaine, mais j'ai quand même le souvenir d'avoir lu des travaux de Bourdieu sur la signification du vêtement, les habitudes de classe, et de Barthes sur le système de la mode, introduisait déjà ces notions plutôt dans les années 50, 60, 70. Et plus tardivement, je pense que mon héros dans la discipline de l'écriture sur la mode, et notamment sa psychologie, c'est Anna Aronofsky-Kronberg, que vous connaissez forcément, qui a fondé le magazine Bestoy, notamment, et qui travaille au London College of Fashion. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, on a la sensation que ces sujets sont plus dans une sphère de réflexion ou quelque chose de très contemplatif, en fait, et pas du tout prête à l'emploi, c'est-à-dire pas du tout connecté à la réalité des marques et de la discipline de l'industrie au quotidien. Et est-ce que c'est quelque chose que vous partagez? Et si oui, comment est-ce qu'on fait pour justement faire en sorte qu'une fois que vous avez formé ces étudiants à faire des travaux de recherche quali-quanti, on donne ces résultats prêts à l'emploi quelque part pour que les industriels les appliquent.
C'est drôle parce que je vais me permettre de vous piquer cette phrase que vous venez de dire. En fait, les noms que vous avez cités, ce sont des sociologues. Et c'est vrai que... Mais on est très, 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 très proches. Et c'est pour ça que, par exemple, moi, je me faisais un point d'honneur. Alors, c'est bête, hein, mais je me dis, au début, ne collabore pas avec tes collègues sociologues de London College of Fashion parce qu'en fait, c'est comme si... Alors, j'ai la métaphore en anglais, mais je vais la faire en français. C'est comme si je sais pas, un Marseillais ou un Toulousain avec un fort accent de Toulouse, essayer de parler français avec quelqu'un du Nord qui a un fort accent du Nord. Ils parlent la même langue, mais ils ont ce petit truc de différent. Et ils vont même avoir des mots qui vont être différents, mais qui veulent dire la même chose. Et ben, la sociologie et la psychologie, c'est pareil. Quand je parle de William James, il a dit une phrase qui a fait des livres entiers de Barthes, par exemple. Et par contre, la différence entre la sociologie et la psychologie, et là, je vais mettre quelques sociologues à dos, ou même deux psychologues, allons-y. La sociologie, généralement, fait beaucoup de qualitatif. Ça veut dire qu'ils vont explorer, ils vont réfléchir. Et la différence entre personnellement, entre un sociologue et un psychologue, c'est que les sociologues sont très, très forts dans la contemplation, mais dans le bon sens du terme. Ça veut dire qu'ils vont avoir un tel recul du phénomène par rapport à la société que ça va amener un peu plus ça va un peu plus nourrir sa contemplation et cette analyse qualitative. Un psychologue, surtout un psychologue cognitiviste comme moi, pour nous, le cerveau, c'est un ordinateur. Ça veut dire que 1 plus 1 égale 2. Ça veut dire que, par exemple, quand moi, je fais du qualitatif, c'est très bien, mais à un moment, il faut que je mette une quantité. Ça veut dire que, par exemple, quand je parle d'une baisse de bien-être chez les top modèles et que je le publie, j'adore ces deux articles que j'ai publiés dans le domaine, j'en suis très, très fière. Mais à un moment, il faut que je quantifie. Parce qu'à un moment, je me dis, OK, il y a une baisse de bien-être, c'est intéressant, mais moi, je veux savoir la différence de bien-être entre une jeune top modèle, une top modèle avec plus d'expérience professionnelle entre les hommes, entre les femmes. Et en fait, tant que je n'ai pas mis des chiffres dessus, je ne peux pas dire aujourd'hui, les top modèles souffrent de leur métier. Parce qu'en fait, j'ai juste exploré, j'ai juste mis le doigt sur... j'ai juste même pas ouvert une porte, j'ai juste touché la poignée. Et par contre, après, je vais ouvrir la porte en disant, OK, maintenant, c'est comme ça, je vais modéliser l'impact des années de travail en tant que top modèle sur le mal-être. Et ça, c'est la différence entre les psychologues et les sociologues. Et c'est pour ça que, par exemple, il y a un magnifique livre qui s'appelle Psychology of Clothing, qui est absolument merveilleux, qui est écrit par une sociologue. Donc, c'est pas de la psychologie. Elle dirait que c'est de la psychologie. Et j'ai jamais osé la contredire parce que ce livre est absolument superbe. Donc, en fait, on s'en fout que ça soit... Enfin, le terme, le mot, presque, on s'en fiche parce que c'est tellement beau, son livre. Mais c'est de la sociologie de la mode.
Très bien. Merci beaucoup. C'était très clair. J'ai commencé par dire que je manquais de culture sur le sujet. Mais c'est vrai que voilà, j'avais l'impression que les contours étaient un peu flous pour moi. Du coup, à la lumière de votre expérience et peut-être si vous avez l'historique en tête, est-ce que vous pouvez faire un exercice de synthèse sur ces 30 dernières années de l'évolution avec un prisme psychologique du coup de notre rapport d'abord à la mode et en particulier avec l'avènement de la fast fashion et puis secondairement l'avènement des réseaux sociaux.
Ah, vous voulez dire de la discipline de la psychologie de la mode ou du domaine en fait de l'évolution de notre état psychologique en tant que consommateur.
La deuxième question. La deuxième réponse, pardon.
Ouais. Merci parce que je suis pas sûre que j'aurais pu répondre à la première parce que y a pas assez d'historique. Et c'est intéressant parce qu'en fait, comme le montre la sociologie, l'histoire de la mode, en tout cas les tendances de mode, c'est cyclique. Ça veut dire que je suis sûre que vous soyez plutôt jeune ou plutôt âgé si vous nous écoutez. À un moment donné, quand vous étiez adolescente, vous êtes descendue dans le salon et votre père ou votre mère vous a dit « Ah, c'est marrant, j'avais exactement la même tenue. » Ou votre grand-mère a pu vous le dire. En fait, c'est cyclique la mode. En fait, c'est quelque chose, quand on regarde un peu, quand on analyse les défilés ou les modes, il y a toujours un peu un élément qui revient. Ça peut être des patterns, ça peut être une coupe, ça peut être des couleurs. Par contre, il y a un énorme événement d'un point de vue psychologique qui s'est passé. Il y a deux événements pour moi. La première, c'est les réseaux sociaux. Ça veut dire que quand ma génération, là, moi, je suis née dans les années 80, quand moi, ma génération, on attendait deux fois par an le catalogue de la Redoute et des Trois Suisses, et que moi, j'ai fait le pied de grue devant ma boîte aux lettres pendant peut-être deux semaines en attendant le facteur, et que tous les jours, on me disait « Non, désolé, je ne l'ai pas encore », et qu'après, le catalogue arrivait et que je le piquais avant que mes sœurs puissent le prendre et que j'avais ma collection de post-it pour mettre des post-it. Enfin, c'est tellement vieux. On a l'impression, enfin, quand je le dis à mes étudiants, ils me regardent en disant « Mais t'es né dans les années 50, en fait ». Non, non, 81. Donc, c'est pas si vieux, mais en fait, on a ces réseaux sociaux où quand je vois qu'en trois clics, mes étudiants me montrent de nouvelles tendances, quand malheureusement je vois des copies de défilés, en 24 heures on peut copier n'importe quel défilé et ça se retrouve dans des marques de fast fashion. Ça va tellement vite, les réseaux sociaux ont accéléré le rythme de ces tendances de mode. Ont aussi accéléré la recherche des tendances. Ça veut dire qu'en trois clics, on peut trouver un magnifique, hein, je mets des gros guillemets, magnifique sac de contrefaçon. Alors que moi, je vais parler comme une vieille, à mon époque, la contrefaçon, c'était un sac Louis Vuitton avec un W pour faire genre Louis. Enfin, c'était tellement laid que c'était ridicule. Et ben là, aujourd'hui, on en trouve encore de ça. J'aimerais savoir qui en achète. Mais on trouve aussi des sacs Louis Vuitton qui sont vraiment, vraiment... moi, je n'ai pas vu la différence. J'ai voulu tester mes collègues à l'époque qui étaient stylistes au London College of Fashion. Eux-mêmes n'ont pas vu la différence. La différence, c'est que le sac Louis Vuitton coûtait 2 euros, entre 10 francs, et que là, le faux sac Louis Vuitton coûte 400 euros, mais par contre, est aussi beau que le... Enfin, aussi beau que le vrai. En tout cas, ressemble à s'y méprendre vrai et il coûte que 400 euros. Et puis, on a aussi cette image, encore une fois, je vais prendre mon exemple. Moi, enfant des années 80, je rêvais devant les super top modèles. Naomi Campbell, Claudia Schiffer, elles étaient peut-être une petite dizaine et je pouvais avoir un ou deux posters, je pouvais avoir un ou deux magazines. Mais c'est tout. Aujourd'hui, si vous... mes étudiants me disent, elles sont encore bien tendance, mais la famille Kardashian ou n'importe quelle égérie de mode ou égérie des réseaux sociaux de tout court sans n'avoir rien fait de leur vie, en 3 clics, vous connaissez toute la vie de votre égérie, en fait. Et c'est ça a changé le comportement des consommateurs. La deuxième chose qui a changé le comportement des consommateurs, et c'est pour ça que j'ai une fascination pour la Gen Z et les millennials, les jeunes millennials, parce que des fois, je fais partie des millennials alors qu'on n'a pas du tout les mêmes façons de penser ou de consommer. Mais vraiment, je dirais les gens 25 ans et moins. Je suis fascinée par comment vous pensez, en fait. J'aurais tellement aimé pouvoir penser comme vous. Parce que vous êtes capable de casser, vous savez, souvent en thérapie ou en psychologie, on parle souvent de cercle toxique ou cercle négatif. Et toute une génération a été capable, et on ne comprend pas encore pourquoi, a été capable de casser plein de cercles. Alors, je ne dis pas que personne ne consomme de la fast fashion, hein, mais par exemple, les top modèles ont toujours, enfin, depuis très longtemps, ont été maltraités. Et pourtant, là, les jeunes top modèles commencent à parler, commencent à se filmer en pleurant, en disant « mais c'est pas possible, on me maltraite, c'est de l'abus, on me demande de perdre 20 kilos et le mettre sur les réseaux sociaux ». Le Black Lives Matter Movement a été créé en 2013 et depuis le meurtre de George Floyd, tout le monde, enfin tellement de personnes en ont parlé, tellement de personnes ont mis le genou à terre, tellement de personnes parlent de racisme que c'est fascinant. Il y a même les conditions de la femme, quand je parle à mes étudiantes et que je leur raconte comment les étudiantes étaient traitées à mon époque. Et la question, c'était « mais pourquoi t'as rien dit ?» Mais parce que ça se disait pas. Et pourtant, vous, votre génération casse ce cercle-là. Et ça se retrouve dans la mode. Malheureusement, pas tout le temps, parce qu'on a des marques d'ultra fast fashion et de fast fashion qui explosent de succès. Mais il y a quand même cet impact-là sociétal qui a complètement modifié notre rapport à la mode et aux vêtements.
Merci beaucoup pour ce récap. C'était pas un exercice facile. Au quotidien, vous avez mentionné votre activité d'enseignement, mais vous faites aussi de la recherche. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de comment s'organisent les deux ? Et puis ensuite, on fera un focus sur la recherche précisément.
Alors, généralement, quand on est en université ou en école de commerce, la plupart de vos enseignants ne sont pas que enseignants. C'est-à-dire que c'est 50% de leur travail. Ouais, en général, 50% de mon temps est divisé entre ma classe et mon laboratoire. Donc en classe, vu que j'enseigne, même quand j'enseigne à des premières années, j'utilise toujours les recherches pour vraiment aller questionner mes étudiants ou vraiment aller dans une réflexion un peu plus approfondie, par exemple avec mes masters sur l'industrie de la mode, business ethics, la psychologie du consommateur. Mais j'utilise toujours mes recherches ou des recherches d'autres personnes pour aller vraiment vers un enseignement de la non-fake news, en fait. De vraiment, je leur enseigne, par exemple, je leur dis souvent, je vous prépare pour les repas de Noël avec tonton grincheux. C'est-à-dire qu'on a tous un tonton ou une tata, enfin, quelqu'un de notre famille qui est emboutable en disant, ah, ben, vous, les jeunes, vous êtes feignants, à votre âge, enfin, des choses un peu qui peuvent mettre à mal le repas de Noël. Et ben, moi, en fait, je leur apprends en cours la théorie du marketing, mais également à avoir un raisonnement pour dire des choses comme par exemple l'industrie de la mode est raciste. Ça, c'est un point de vue. Mais si on dit l'industrie de la mode est raciste parce que dans les chiffres et de sortir des références, de sortir des bouquins Et là, on passe un meilleur Noël sans tonton grincheux. Donc ça, c'est ce que j'apprends en classe. Après, j'ai mon autre 50% qui est la recherche. Donc généralement, un travail de chercheur, c'est un travail de fourmi où d'abord, on va lire les autres articles qui ont été publiés dans un domaine précis. À partir de cette longue lecture, on va identifier ce qu'on appelle un gap, une question qui n'a pas été répondue. Par exemple, on parlait des top modèles. Il y avait très peu d'articles, si ce n'est aucun, sur l'étude du mal-être ou bien-être du stress chez les top modèles. Donc, moi, j'ai mis en place une méthodologie. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on apprend en méthode de recherche. Une méthodologie qui va me permettre de répondre à ma question. Je vais chercher des participants, je collecte mes données. Ensuite, je les analyse, soit avec une analyse statistique ou soit avec une analyse qualitative. Et ensuite, je discute, je fais une réflexion sur mes données, je montre ce que j'ai apporté avec mes résultats, j'écris un article et le travail recommence pour le prochain article.
Et donc, l'initiative de vos recherches, les sujets, c'est vous qui les proposez ?
Alors, dans le monde merveilleux de Burgundy School of Business, oui, parce que j'ai une école qui est très ouverte, qui est pro-diversité, pro-RSE. Donc, dans mon cas particulier, j'ai la chance d'avoir des managers extra. Et je dis ça, je suis pas sûre qu'ils écoutent le podcast, donc je peux en mettre des tartines. On a la liberté, moi et tous, tous mes collègues, on peut faire la recherche qu'on a envie de faire. Parfois, dans certains établissements, français ou autres, on a quand même des directives de thèmes à aller rechercher, d'industrie à étudier. Nous, on a carte blanche à BSB. Ça veut dire que si j'ai envie de même faire un cas d'étude sur une marque et pourtant avec qui on collabore ou on a des anciens étudiants, j'ai carte blanche.
Et donc, elles sont financées par BSB ? Ou bien c'est des financements en partie publics et j'imagine qu'il y a des cas de figure où potentiellement vous avez peut-être des commandes, pourquoi pas même par des marques. Et là, on s'approche peut-être plus des organismes de survey, enfin de conseils ou qui génèrent, dont le métier c'est de générer des données à des fins commerciales bien souvent. Mais dans ce cas, il peut y avoir un peu des conflits d'intérêts. Il y a un risque en tout cas de conflit d'intérêts sur les résultats. Ou bien est-ce que c'est des études qui sont complètement impartiales?
Alors déjà, au niveau du financement, je ne suis pas financée à proprement parler. En fait, c'est mon salaire. Donc, mon salaire paye et mes activités d'enseignement et mes activités de recherche. Après, on va aller chercher des financements de recherche. J'ai des budgets alloués pour ma recherche, pour par exemple payer des participants ou m'acheter du matériel dont j'ai besoin pour mes recherches. Par exemple, j'avais une recherche avec des t-shirts, donc j'ai dû aller acheter des t-shirts. Donc, on a un budget alloué grâce à l'école. Donc, à proprement parler, si j'ai besoin d'un plus gros budget de recherche, par exemple, si j'ai envie d'avoir un doctorant ou un assistant de recherche, là, je vais aller. Il y a des appels de recherche, des appels de fonds par le gouvernement, par des instituts de recherche qui sont lancés. Alors, si je veux faire une étude de cas, généralement, mes données. Alors, on a deux options. Soit on collabore avec la marque, donc là, elle nous donne les données et on fait une collaboration. Et c'est normalement, c'est bien stipulé parce que c'est très très sensible en fait de faire une étude académique universitaire avec une marque. Donc ça, on est obligé, parce qu'en fait, à chaque article universitaire qu'on publie, on est relu en fait. On a des correcteurs en fait. On a trois correcteurs par article qui nous disent, et si par exemple, je fais un article, je ne sais pas, sur H&M, qui prouve par des données que H&M est complètement éco-responsable et que mon co-auteur, c'est quelqu'un d'H&M, ça passera jamais en article universitaire, je veux dire. Mais généralement, on fait des études de cas entre universitaires sur un point précis d'une marque, mais sans les données d'une marque. En fait, on va par exemple, on peut étudier l'attitude des consommateurs sur cette proposition de recyclage de vêtements d'H&M. Donc là, on n'a même pas besoin d'H&M, en fait. Donc on n'a même pas besoin de leur permission. On va pas leur demander des données, mais on va faire une étude qualitative, par exemple, où on va inviter 12 personnes et on va faire des entretiens individuels pour leur demander qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu penses que c'est positif, est-ce que tu penses que c'est éco-responsable, et on va publier l'article. Par contre, on peut collaborer sur du consulting. Et là, les marques nous payent en tant que consultant, donc c'est pas en tant qu'ancien chercheur, en tant que consultant, pour un travail où on partage notre expertise marketing. Alors, moi, j'ai fait un choix, d'offrir mes... Quand je fais du consulting, ce n'est que pour des marques de mode durable. Et quand je dis marque de mode durable, c'est vraiment... Enfin, par exemple, On peut faire un débat sur HM, par exemple, je parlais d'HM, je ne fais pas du consulting pour HM, et d'ailleurs, ils n'ont pas besoin de moi, ils ont des gens qui travaillent déjà sur l'éco-responsabilité de la marque, mais par exemple, je ne vais pas aller offrir ou travailler en tant que consultant sur des marques, était au Rana Plaza, par exemple, ça, je ne fais pas. Mais par contre, mais mon consulting est gratuit pour toute start-up, toute marque de mode durable, 100% durable. Là, je le fais, c'est plus du conseil, c'est plus de la discussion, c'est plus ça, je le fais pas très souvent, mais je le fais quand on me le demande.
Et dans l'océan de la littérature scientifique dans lequel partent vos publications, parce qu'il faut malgré tout bien les chercher et elles ne sont pas forcément toutes relayées par les médias. Comment est-ce qu'on les retrouve et est-ce que vous savez à qui elles servent finalement? Est-ce que vous-même, vous pouvez faire la démarche, si on prend un exemple très concret, celui de l'étude de l'impact de leur profession sur les mannequins, d'envoyer ces résultats à des agences, à des médias spécialisés, etc., pour progresser collectivement en fait? Vous disiez que le but de votre travail, c'était de rendre les gens heureux. Comment faire?
C'est marrant, ça fait une semaine que je suis dans cette réflexion-là. Parce que normalement, quand on est ancien chercheur, on travaille pour notre communauté. C'est-à-dire que moi, mes articles, vous avez peiné à les trouver. Parce qu'en fait, typiquement, des articles universitaires, c'est sur des sites où seulement les universitaires vont. Donc, en gros, s'il y a 100 personnes qui ont lu chacun de mes articles, franchement, je serais heureuse.
Là, c'est des gens... de révéler la botte secrète de The Good Goods, mais on voit bien.
Mais et c'est vrai qu'au début, vu que la psychologie de la mode est quelque chose de très nouveau, pendant ces deux dernières années, déjà, il y a quelque chose qui s'appelait le Covid qui est arrivé. Donc, j'avais besoin personnellement de m'occuper de mes enfants, de mon mari, de voir ce qu'on allait faire. Mais c'est vrai qu'une fois que je suis rentrée en France, que j'avais développé le département de psychologie de la mode à London College of Fashion, je me suis dit, maintenant, j'ai créé un cours. Maintenant, on va faire de la recherche. On va faire vraiment, on va comprendre, on va mettre des chiffres, mettre des mots sur ces phénomènes-là. Et puis, moi, ce que j'aime, c'est donner le micro, en fait. Je voudrais donner le micro pour dire la mode est raciste, la mode fait du mal, et de trouver des solutions. Donc, il fallait que je fasse de la recherche. Donc, j'ai passé ces deux dernières années à publier, à mettre en place des projets de recherche, à vraiment aller faire ce travail de petite fourmi. Maintenant, je commence vraiment à publier et je pousse mes collègues à le faire parce que pour l'instant, pour le coup, je suis seule à publier dans ce domaine et j'essaye d'aller chercher mes autres collègues de psychologie pour dire, allez, vous avez ce savoir de psychologie, utiliser cet outil qui est la mode et qui est un outil, en fait. C'est juste une variable à étudier et allons-y ensemble. Et donc, on est en train de faire de mettre en place un livre universitaire de recherche avec plusieurs psychologues qui vont faire des chapitres de recherche dans la mode. Mais par contre, je me disais, en classe, j'ai un speaker, j'ai un haut-parleur magique. Enfin, vraiment, c'est d'être en classe devant des étudiants à chaque fois... J'ai 3 heures pour avoir cet haut-parleur qui dit « voilà ce que c'est l'industrie de la mode » et je parle de mes recherches. Et c'est vrai que là, je commence à me dire « ok, maintenant j'ai quelques papiers, j'ai montré 2-3 trucs, qu'est-ce qu'on fait ?» Donc c'est vrai qu'on m'invite souvent à faire des podcasts, des masterclass, des entretiens. Et c'est intéressant, mais c'est vrai que je commence de plus en plus à penser à… Je suis pas très réseaux sociaux, je suis une vieille dinosaure, comme je vous ai dit, c'est des années 80, mais un site internet, quelque chose de facile pour dire, voilà, ça c'est cet article, pas peine de le lire, ça c'est les 3 points qu'il faut retenir. Et notamment en français, vu que je suis très très fière d'être française et la psychologie de la mode est pour l'instant anglaise et j'aimerais bien la rendre française, j'aimerais bien ouvrir ce champ d'auditeurs en fait, ou de lecteurs à la France. Donc, et un livre au grand public aussi serait intéressant. Mes étudiants me le demandent. Donc, en fait, on a un deal. Ils me donnent moins de travail et comme ça, j'aurai le temps pour écrire un livre grand public. Mais ils ne m'écoutent pas beaucoup.
Et alors, en pratique, comment est-ce qu'on met en place une étude de psychologie quand vous avez défini votre thème? Bon, bien sûr, ça dépend si c'est quali, si c'est quanti, si vous avez besoin d'une marque ou pas, mais peut-être prendre un exemple concret. Alors, soit une sur laquelle vous êtes en train de bosser ou une que vous avez... préalablement fait, combien de temps ça dure, combien de personnes il faut, etc.
Alors, comme vous disiez, le mot océan correspond bien. Dans l'océan de la littérature scientifique, on a plusieurs journaux. Les journaux sont plus ou moins cotés. Ça veut dire qu'on a des petits journaux qui sont sympathiques, mais qui ne sont pas lus par grand monde. On a des grands journaux qui sont lus par toute la communauté scientifique, qui sont très, très cotés. C'est vraiment, c'est comme les restaurants, quoi. Ça va du McDo aux 6, 7, 8 étoiles parfois. Il y en a certains qui sont vraiment bien cotés. Par exemple, pendant le Covid, on a entendu parler du Lancet, qui était un des plus grands journaux universitaires. Donc, on a déjà cette notion entre les thèmes. On a des journaux de psychologie, de marketing, d'économie. On a des thèmes et on a une hiérarchie dans les journaux. Ensuite, par exemple, comment ça se passe? Donc, généralement, moi, j'ai un terrain de jeu qui est assez large. Donc, en fait, vu que j'ai carte blanche et que j'ai un terrain de jeu assez large, je vais où j'ai envie d'aller. Par exemple, généralement, ça me vient de mon expérience perso, soit ça me vient quand je rencontre des gens avec qui je parle de mon travail ou quand je parle avec mes étudiants. J'adore les idées de mes étudiants et j'adore cette émulsion d'idées. Ils me donnent à peu près 32 idées de recherche par heure de cours. Et la dernière fois, je parlais avec une femme et qui me parlait, une femme de plus de 50 ans et qui me parlait de, on parlait voilà de ces consommateurs invisibles. Elle dit ah oui c'est vrai parce que moi passé 30 ans je me vois plus quoi. Et c'est vrai qu'elle dit puis je vous parle même pas de la ménopause. Et c'est vrai que c'est quelque chose moi qui m'intrigue en tant que psychologue quand je suis pas ménopausée, je sais pas ce que c'est que la ménopause. Je suis blanche, je sais pas ce que c'est que d'être noire. Je suis pas handicapée physique, je sais pas ce que c'est d'être handicapée physique. Donc quand je rencontre des gens qui sont différents de moi, j'aime bien leur dire vas-y raconte-moi, mets-moi dans tes on dit put me in your shoes en anglais, mets-moi à ta place, mets-moi dans tes chaussures. J'aime bien cette traduction française, je sais que c'est pas très français, mais je l'aime bien. Je voudrais vraiment être dans tes chaussures pour comprendre ce que c'est d'être une femme, d'être un homme, d'être handicapé, d'avoir plus de 50 ans. Explique-moi, en fait, d'avoir 20 ans. Explique-moi ce que je sais d'avoir 20 ans en 2023. Et cette réflexion-là, généralement, me donne des idées de recherche. Par exemple, en parlant avec une femme de plus de 50 ans qui s'inquiétait des conséquences néfastes de la mode et des réseaux sociaux. Et je l'écoutais et je comprenais ce qu'elle disait. Puis dans ma tête, je me disais, mais ma chérie, toi aussi, t'en as souffert. Et t'en souffres encore, t'as 50 ans, t'es nulle part dans l'industrie de la mode. Elle le voyait pas. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant. Et est-ce qu'il y a déjà des scientifiques qui ont répondu à cette question? Alors, il y avait des scientifiques qui avaient étudié la consommation, on appelle le groupe des consommateurs gris. Grisant, on dirait plus en français, des plus de 50-60 ans. D'un point de vue marketing, d'un point de vue segmentation très très spécifique de comment ils achetaient. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir comment ils achetaient dans la mode, mais surtout comment ils voyaient la mode. Donc, en fait, j'ai fouillé les articles et il y avait des éléments, mais on ne savait pas comment les personnes, j'appelle ça les personnes mûres, parce que j'aime pas dire les personnes âgées, on n'est pas âgé à 50 ans, comment elles percevaient la mode. Donc j'ai établi, donc j'avais cette question-là, cette question de recherche, et j'ai établi plusieurs études. La première, je me suis dit, j'ai besoin d'un constat, parce que j'ai pas de constat. Donc je me suis tapée parce que c'était très long, je me suis fait ce qu'on appelle un content analysis, donc une analyse de contenu. J'ai analysé entre 18 et 25 magazines de mode, donc je les ai choisis. En fait, chaque chose que je fais en recherche doit être justifiée, donc j'ai choisi 3 magazines, à des périodes bien spécifiques en expliquant pourquoi choisir ces 3 magazines. Et j'ai codé l'apparition de chaque modèle, homme et femme, qui paraissait de plus 50 ans. Et ça paraît facile, mais en fait, quand la prochaine fois que vous avez un magazine de mode ou que vous allez sur les réseaux sociaux, par exemple, j'ai fait pareil avec les consommateurs noirs, et ben on avait la question magique, à quel moment on considère que quelqu'un paraît 50 ans ou plus? À quel moment on est noir? Et ça, c'est quelque chose, on a mis des heures et des heures à débattre ce sujet, à quel moment on dit, ok, cette personne est quelqu'un de non-blanc, et donc on peut l'intégrer dans notre codage. Donc j'ai fait un état des lieux avec cette analyse de données, d'analyse de contenu de magazine, et j'ai constaté, aux surprises, que seulement 1,6% des magazines représentaient des personnes de plus de 50 ans. Et que dans ces 1,6%, ce tout petit rikiki grinderie, eh bien la plupart du temps, la majorité de ces 1,6%, c'était pour des pubs de crème anti-rides, bien sûr. Et que c'était les personnes âgées, parce que là, elles étaient clairement âgées, étaient représentées comme la mamie qui fait des confitures, ou les grands-parents qui attendent les petits-enfants. Enfin, vraiment, c'était... Donc forcément, se dire... Non seulement qu'ils avaient des petits-enfants, donc des enfants, et que c'était dans un rôle très passif, très mamie Nova, en fait. Et donc, à partir de ce constat-là, j'ai fait une deuxième étude qualitative. Donc, j'ai recruté 33 personnes âgées de plus de 50 ans qui voulaient bien me parler, des hommes et des femmes. Et j'aurais posé des questions en disant, qu'est-ce que vous pensez des pubs dans la mode? Qu'est-ce que vous pensez de l'industrie de la mode? Est-ce que vous vous sentez affecté? Et j'ai fait une analyse de données alors spécifique qui s'appelle thematic analysis. Et ça, cette analyse a montré que les hommes et les femmes avaient un impact différent de la mode Et notamment, les femmes avaient plus d'impact, en tout cas, quand elles m'en parlaient, mais c'était inconscient. C'est-à-dire qu'elles avaient plus d'impact sur leur corps, sur leur estime de soi, sur... mais elles n'en avaient absolument pas compte. En fait, elles ne s'en rendaient pas compte du tout. C'est moi, en allant faire l'analyse et en lisant entre les lignes, c'était des femmes qui n'aimaient pas leur corps, qui n'avaient pas confiance en elles, qui se trouvaient vieilles, qui se trouvaient... Enfin, c'était absolument effarant. Et surtout, ce qui m'a fait un peu peur, c'est que et les hommes et les femmes avaient peur pour les jeunes. Ça veut dire que non seulement ils ne se rendaient pas compte de l'impact que la mode avait sur eux, mais qu'ils avaient peur pour les jeunes. Jeunes qui, eux, ont conscience de l'impact de la mode, ont conscience de l'impact des réseaux sociaux. Donc en fait, j'ai trouvé ça assez, assez triste de voir ces consommateurs impactés sans en avoir conscience et avoir peur pour les générations futures, ce qui était mignon, mais générations futures, en fait, presque, il faudrait que les jeunes apprennent aux plus âgés et dire « en fait, c'est comme ça que ça se passe ». Et ensuite, grâce à cette étude qualitative, j'ai proposé un modèle, donc en fait un impact avec toutes les variables, par exemple l'impact du stress, de l'image corporelle, de la masse corporelle. J'avais plusieurs facteurs qui impactaient la perception d'eux-mêmes dans la mode et avec des variables externes. Et donc après, je suis en train de collecter des données quantitatives, donc des chiffres avec des surveys, des questionnaires. Et donc là, bientôt, j'espère, je vais pouvoir avoir assez de données. J'attends, pour l'instant, j'ai 63 personnes. Il faudrait que j'arrive à une centaine de personnes. Et après, je vais faire une analyse mathématique pour voir quelle variable joue plus sur une autre.
Très bien, c'est hyper clair. Et alors, dans l'ensemble des thèmes de recherche que vous avez abordés depuis le début, on a quand même l'impression qu'il y a une convergence, une volonté d'étudier l'impact, finalement, du consumérisme et des dérivés et du marketing en particulier sur la psychologie des consommateurs, la performance de l'apparence, la maigreur, l'agisme, l'anxiété aussi liée au fait de procéder trop de choses, que vous avez étudié le minimalisme, on n'en a pas trop parlé encore. Est-ce que vous validez ce constat et vous l'avez déjà validé jusqu'ici, mais pour vous, finalement, qu'est-ce que serait la racine du mal? Est-ce que c'est la mode en elle-même, la publicité, autre chose?
Alors déjà, je valide complètement le constat. J'ai longtemps, pendant les premières années où j'ai commencé à étudier, à lire sur la mode, je me suis dit, mais où est la racine du mal? Un peu en mode Maxime Chatham et Franck Tully, en disant, OK, je vais aller fouiller en mode thriller et je vais chercher les racines du mal et les exterminer. Et puis en fait, je pense à l'opposé maintenant. Les racines du bien, en fait. Et je me dis, en fait, il y a tellement de variables qui nous impactent négativement qu'on ne peut pas lutter. En tant qu'individu, si aujourd'hui, en tant qu'humain, si aujourd'hui on veut sauver la planète et être bien dans notre corps, c'est très simple. On arrête de manger de la viande, on roule tous en vélo et on se regarde tous les matins dans le miroir en disant « Waouh, mais qu'est-ce qu'on est beau et belle, c'est extraordinaire !» Ah, c'est super simple, sur le papier. Parce qu'en fait, en vrai, 91% des femmes n'aiment pas leur corps. Les chiffres qui tombent sur les hommes, sur les jeunes hommes, les adolescents, c'est encore pire. Et qu'un bon steak de temps en temps, sauf si on est vraiment végétarien 100%, enfin en tout cas, quand je parle aux non-végétariens, ils me disent « Oui, mais un bon steak quand même, ça fait plaisir. » Et des fois, la voiture, c'est pratique. Parfois. Donc, on peut pas, en tant qu'être humain, on n'est pas parfait. C'est pas possible. Mais en fait, je me dis « Ok, au lieu d'aller vers la racine du mal en disant « Ah, les réseaux sociaux, ah, mon Dieu, fast fashion !» Je trouve ça un peu trop binaire. Et en plus, quand on dit « Ah, la fast fashion !» Ok, alors, je m'excuse pour tous les écolos en sachant que je suis écolo. Mais par exemple, H&M, qui est pour moi la représentation de la fast fashion, a des initiatives vertes, en fait. Ils essayent. Alors, c'est pas parfait parce qu'ils surproduisent à fond, mais ils essayent, en fait. Par exemple, quelqu'un... je veux dire quelque chose qui m'exaspère, mais quelqu'un qui achète une voiture électrique pour être écolo... C'est comme si on me disait « je mange un burger pour maigrir mais », mais il y a déjà un début de réflexion, en fait. Donc, je me dis « Ok, la racine du mal n'est pas non plus que noire. Mais par contre, la racine du bien, je sais exactement où aller et ça, mes recherches pointent tout le temps dans la même direction et une unique direction. La racine du bien, c'est nous. C'est moi, en tant qu'individu, si j'arrive à me regarder dans le miroir en disant « mais t'es super canon ce matin », eh bien, tout va bien. Alors après, la difficulté, c'est comment on arrive à convaincre, comment on apprend à quelqu'un à se regarder dans le miroir en disant « mais t'es super canon ». Attends, bouge pas, je vais mettre un t-shirt de mode éco-responsable et ça va aller encore mieux. Ça, c'est mon boulot principal. Là, je me suis fait vraiment une ligne de conduite en disant, ton seul objectif, si je peux atteindre avant la fin de ma carrière, apporter des réponses à cette question, j'aurai réussi ma carrière. Et je commence un petit peu à aller dans des directions. Par exemple, une de mes recherches a montré que quand on met un t-shirt éco-responsable, on a plus d'émotions positives. Et quand on met un t-shirt non éco-responsable, on a plus d'émotions négatives. Donc en fait, moi, mon boulot, une fois que j'ai montré ça avec des chiffres, avec une méthode bien calée et que j'ai publié ça, mon boulot, c'est de passer le micro à un maximum de personnes, comme par exemple sur ce podcast, en disant hey, « Hé, les gars, les filles, mettez des t-shirts éco-responsables et vous sentez mieux dans vos pompes, vous êtes plus heureux, vous avez plus d'émotions positives. » C'est pas génial, ça? Quand généralement, on me dit, quand mes étudiants ou mes collègues ou des gens autour de moi me disent « se sentir belle, ok, mais bon, toi, la... » C'est ce que je disais au début, moi, la première, quand je regardais les supports supermodèles du haut de mes 14 ans et que je voulais ressembler à Claudia Schiffer et Naomi Campbell, enfin, c'était pas possible, quoi. Donc je n'étais pas belle. Et pourtant, d'apprendre à se sentir beau ou se sentir belle, c'est super important. Des fois, c'est le travail d'une vie, des fois, c'est le travail d'un été, des fois, c'est le travail d'une rupture. Mais c'est ça qui est important. Et quand on me dit « mais comment on fait ?» Ah, je dis « c'est très simple ». Tu te ressens sur toi et tu t'éloignes des autres. Ce qui est très dur. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, tu coupes pendant un petit moment. Juste pour te donner, surtout, alors je vais parler comme une vieille et je m'en excuse auprès de vos auditeurs, mais c'est vraiment, c'est pas un détox des réseaux sociaux. C'est pas ça qui est important. Mais vous êtes une génération qui est née avec les réseaux sociaux. Par exemple, ceux qui ont 40, 50 ans comme moi, on a dû apprendre à servir, et littéralement, des étudiants m'ont appris à me servir d'Instagram. Mais on n'a pas vécu avec ça. C'est-à-dire que vous êtes né avec toujours un téléphone pas loin. Donc, cette détox, ce n'est pas une détox qu'il faut faire, mais c'est cet éloignement, de dire ce que je vois dans les réseaux sociaux n'est pas vrai. Et vous savez que ce n'est pas vrai. Je sais, vous le savez, tout le monde le sait. Mais vraiment d'intégrer dans le cerveau que, par exemple, moi, mon niveau en tant que maman, quand j'ai commencé Instagram et que je voyais des mamans en talons aiguilles maquillées, en mode pompé d'op et qui faisait des pancakes, qui avait l'air super sain, super bon aux enfants. Je disais, mais moi, c'est pas moi. Enfin, ça, c'est pas chez moi, c'est pas possible. Moi, mes jumeaux, ils ont pas de pancakes, je ne suis pas en talons aiguilles, je ne suis pas maquillée. Et si on est tous les trois lavés, c'est une grande victoire. Et je me disais, mais c'est pas possible, comment elles font, quoi? Et je me dis, ouais, mais ça, c'est parce que t'as pas confiance en toi. Et en fait, je me suis rendu compte que mes petites étudiantes qui disaient, ouais, mais en fait, Aurore, tu te rends compte, regarde, elle, comme elle est belle, et que je voyais une. Pardon, je les appelle mes petites papettes, qui est absolument, mais tellement belle. Et je me dis, mais comment tu peux pas voir ça? Et en fait, elles pouvaient pas le voir vu qu'elles avaient une Naomi Campbell en face d'elles ou une autre égérie. Et en fait, de mettre de la distance entre ces réseaux sociaux qui vous bombardent d'idéaux de beauté ou de fausses beautés, en fait. C'est pas ça, la réalité, c'est pas ça, en fait. Et bien ça, ça fait du bien et ça fait se recentrer sur soi et de pas... Alors, je sais que des fois, c'est un peu décrié, mais tout ce qui est, c'est pas de la psychologie, mais tout ce qui est développement personnel, qui est partagé par les réseaux sociaux, ça peut aider. Trouver n'importe quelle égérie. Moi, par exemple, c'est pas un développement personnel qui m'a aidé, c'est un auteur, c'est le romancier Alexandre Jardin. De lire ses livres, moi, ça m'a aidé à m'aimer. Alors que ces bouquins sont pas du tout sur le développement personnel. Trouver un bouquin, trouver un auteur, trouver un film, trouver même des vidéos sur Instagram, mais vraiment qui vous disent « Ouais, ce que je vois dans la miroir, ça me plaît vachement, en fait. » Et après, vous allez voir, votre comportement va en découler. Parce que je suis désolée de porter un t-shirt à 1 euro. Ben non, c'est comme... Pardon, j'aime pas McDo, mais manger McDo, je suis désolée, c'est pas bon. Et vous pourrez me répondre « Bah si, un bon burger, quand même. » C'est non, si on veut un burger, on se fait un burger maison, ou un burger un peu chiadé. Un McDo à 5 euros, c'est pas bon. Un t-shirt à 1 euro, à un moment, il y a quelqu'un qui paye le prix. Donc, si tu prends un t-shirt à 1 euro, est-ce que sincèrement, tu te trouves stylé? Puis stylé au bout de 4 fois, parce que ça va durer 4-5 ports, le t-shirt à 1 euro. Donc, en fait, je pense que, pour vraiment répondre à ma question, la racine du mal, il y en a tellement qu'en fait, si on veut couper les racines du mal, il y en a trop. Mais par contre, la racine du bien, la racine de la lumière, c'est nous en tant qu'individu. Et le positif amène le positif. Ça veut dire que, par exemple, si on passe une journée, et moi, je donne un exercice à mes étudiants, en une journée, de faire sourire une personne. Une seule. N'importe laquelle, dans la rue, un étranger, une étrangère, ou quelqu'un de leur famille. Si vous amenez du positif, forcément, cette personne va se sentir mieux, va faire sourire quelqu'un d'autre. Et après, hop, c'est un cercle vertueux. Ben, c'est ça, en fait. C'est pas de la racine du mal, c'est la racine du bien.
Alors, je veux absolument l'étude qui montre qu'on est plus heureux en portant des vêtements éco-responsables. Ça, j'en suis absolument...
Oh bah avec plaisir, parce que je l'aime bien, cet article, en plus.
Des vêtements qui nous ressemblent et qui font sens pour nous. Il y a d'autres études qui ont démontré que le matérialisme, et pour compléter vos propos, entraînait une baisse de, enfin, l'ultra-consumérisme, en fait, hein, une baisse de satisfaction dans la vie, et ce qui a été décrit comme une fatigue décisionnelle. Est-ce que vous confirmez ça? Et est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Alors, on va s'éloigner un peu de la mode, mais par exemple, à la fin de ce podcast, vous arrêtez le podcast et puis vous dites, tiens, il faut que je fasse les courses. Et il vous manque une confiture de fraises chez vous. Vous adorez la confiture de fraises, c'est ce que vous prenez au petit déjeuner. Donc, vous allez dans un supermarché, n'importe lequel, même une grande surface, mon exemple serait même mieux illustré. Vous allez aller en grande surface, vous allez avoir un rayon entier de confiture. Dans ce rayon entier de confiture, vous allez avoir 20 confitures de fraises différentes. Même si vous n'allez pas peser le pour et le contre en disant « Alors, confiture de fraises, alors celle-là j'aime bien, pourquoi pour... ?» Même si c'est pas ce cheminement cognitif n'est pas conscient, vous allez le faire et c'est ultra fatigant. Normalement, on est plutôt en mode rapide, en mode inconscient. Quand on prend des décisions, c'est très rapide. Mais on a tellement de choix aujourd'hui. Pour un pot de confiture de fraises, vous avez tout un rayon de confiture. Ben pour la mode, c'est pareil. Vous voulez être un peu stylé, vous voulez vous acheter, je sais pas, vous avez un super anniversaire et vous voulez vraiment bien vous habiller, vous voulez faire une petite, vous voulez, allez, on va faire du basique de chez basique, une petite robe noire. Mais allez sur Google, tapez petite robe noire et vous avez 32 pages Google. Je parle même pas des magasins ou si vous voulez faire même une petite ville de province comme Dijon où je suis, rien qu'en centre-ville, je sais pas, vous avez peut-être 50 boutiques qui vont vous vendre une petite robe noire. Donc ça fatigue en fait. Vous avez pas forcément conscience, vous dites pas « Oh là là, je suis fatiguée, j'ai couru un marathon », là c'est conscient. Vous dites pas « Oh là, je suis fatiguée, j'ai acheté mon pot de confiture ». C'est pas forcément conscient, mais ça vous fatigue. Toute la journée, on doit prendre ces décisions inconscientes. Depuis le moment où vous êtes levé, non seulement le marketing vous a parlé, on est généralement exposé à minima, on est exposé à 5000 pubs par jour. Minima. Entre la radio, les marques que vous portez, que vos potes portent, la télé, les réseaux sociaux, Netflix, votre ordinateur. Vous arrivez en classe, je dis souvent à mes étudiants, vous arrivez en classe, c'est une pub pour les PC ou les Mac. Il y a deux écoles. Donc hop, ça y est, là, vous êtes exposé à des marques. C'est non-stop. En plus de ça, vous devez faire des décisions. En tant qu'étudiant, quelle option je vais prendre? Est-ce que je dois travailler? Comment j'organise mon travail? Ah, il y a mon copain qui m'a demandé ça, puis j'ai ma pote qui m'a demandé. En fait, c'est non-stop. L'être humain est un être à décision. Donc, si on vous rajoute en plus sur une décision qui est, mais la plus basique au monde, je veux acheter de la confiture pour mon petit déjeuner le matin parce que j'ai l'habitude depuis 10 ans de prendre tartine avec confiture, bah, si vous rajoutez le choix vous fatigue. Donc, moi, je suis partie de ce postulat-là. Qui montre qu'on a une fatigue décisionnelle. Et je me suis dit, tiens, et si on n'avait plus le choix? Si on avait devant nous une garde-robe minimaliste où on ouvre le placard et on a le choix entre 5 tenues, est-ce que ça aura un impact? Et en effet, ça a un impact. Ça a un impact dans le sens où les participants qui ont participé à mon étude ont montré une baisse de stress, une augmentation des émotions positives, une diminution des émotions négatives, et on décrit une plus grande joie. En tout cas, ils aimaient bien le fait de dire « Ah, j'ai que 5 tenues, mais je vais quand même aller dans le créatif, dans l'innovation, etc. » Donc ça les a amusés. Et puis, ils avaient une attitude, en tout cas, une perception plus positive de la mode durable. Ceci étant dit, ce sont des participants qui ont choisi de participer à mon étude. Par exemple, le papier que j'ai publié, c'est une étude exploratoire. Donc, j'avais une dizaine de jeunes femmes qui ont décrit qu'elles avaient une baisse de stress. Et comme j'ai dit, moi, je suis psychologue. Donc, j'ai dit, ah, j'ai pointé une porte, je vais y aller. Donc là, je suis en train de quantifier cet effet. Et en effet, il y a un effet. Il y a un effet, j'ai recruté une trentaine de participants. Pour ces participants-là, il y a une augmentation d'émotions positives, il y a une diminution d'émotions négatives, il y a une diminution du stress pour ces 30 personnes-là. Pour avoir ces 30 personnes, j'ai échangé avec 150 personnes. Donc, j'ai plus de 120 personnes qui m'ont dit « Mode minimaliste, pourquoi pas, explique-moi. » « Oh non, c'est pas possible. » Et il y a même des gens, et je fais même une étude pour comprendre le stress engendré par ce minimalisme. Et vous disiez que le matériel, il a été montré, c'est depuis les années 80-90 par des psychologues positivistes, ont montré qu'une augmentation du matérialisme augmente le stress, l'anxiété, le mal-être. Oui et non. Par exemple, Ils ont fait, dinner et son équipe qui ont montré, par exemple, qu'ont voulu savoir si l'argent rendait heureux. Et puis après, ils ont fait d'autres études pour décrire si le matérialisme rendait heureux. Et bien, en fait, l'argent rend heureux jusqu'à un certain point. Ils ont même montré le salaire moyen pour arriver au max de bien-être. Ça veut dire que si on arrive à un salaire qui est aux environs individuels, aux environs de 3000 euros, et ben on a atteint le meilleur équilibre de bien-être et d'argent. C'est-à-dire que plus on garde de l'argent, plus on est heureux, jusqu'à environ 3000 euros par mois. Au-delà, et ben c'est là où plus on est matérialiste et plus on a un salaire plus élevé, et plus on a un bien-être qui diminue, on a beaucoup de pression, on a beaucoup de mal-être, etc. Donc en fait, cette corrélation de plus on est matérialiste, moins on est heureux, il faut la temporiser. Et encore une fois, par exemple, le minimalisme peut rendre heureux des personnes, ça j'en suis convaincue, mais pas tout le monde. Et c'est ça qui est beau dans la mode durable, c'est qu'en fait, on a différentes options dans la mode durable. Le minimalisme est une des options. Donc si ça vous convient, si ça vous dit et si ça vous fait marrer de ranger votre placard, eh bien faites-le, parce qu'en fait, ça va vous faire du bien. Si ça ne vous stresse pas, allez-y, franchement, moi j'ai fait l'expérience, c'est génialissime. Par contre, si ça vous stresse, rien que l'idée qu'on touche à vos vêtements, et si vous êtes le genre, par exemple, ça c'est mes premiers résultats qui tombent, si vous êtes le genre de personne à avoir 1, 2, même 3 placards, genre 92 paires de chaussures, mais que vous savez exactement quand vous avez acheté cette paire de chaussures, avec qui, dans quelles circonstances, et que vous refusez catégoriquement de prêter ces paires de chaussures, vous ne faites pas du minimalisme. Parce que ça va vous stresser, en fait, donc ça sert à rien de se forcer. Mais vous avez d'autres options de mode durable. Par exemple, si c'est 92 paires de chaussures, vous les chérissez, mais une par une, et que vous les utilisez, que, pas souvent forcément, mais que vous les utilisez toutes, et que vous les connaissez, et que vous en prenez soin, mais vous allez garder toute votre vie ces paires de chaussures. Et ça, de garder des vêtements toute sa vie, ça, c'est une option de mode durable.
Absolument. Je me reconnais tout à fait dans ce profil. Dans les chaussures, c'est les vêtements, mais non seulement les garder à vie, puis même les faire tourner entre générations, c'est fabuleux. Et on a la sensation de vraiment posséder ce qu'on aime, de connaître ce qu'on possède et que ce qu'on porte nous ressemble. Et c'est ultra satisfaisant, en plus des collatérales écolo que ça peut avoir. Mais alors du coup, vous parliez au début de votre activité de conseil aux marques. Justement, à la lumière de ce que vous venez de partager avec nous, comment est-ce qu'on peut accompagner les consommateurs vers un meilleur alignement avec eux-mêmes à travers leurs achats? Bien sûr, ça peut paraître anti-commercial parce qu'on se dit, si on consomme des meilleurs vêtements et qu'ils nous ressemblent plus, on va en acheter moins. Mais de fait, on peut peut-être les vendre plus cher. Et puis, il y a l'économie de service associée, peut-être des nouveaux métiers sur l'accompagnement en colorimétrie, le personal shopping, etc. Enfin, ce serait quoi vos recommandations pour les marques, du coup ?
Alors déjà, pour les marques, je parlais des gens qui sont dans les comités de direction, ou en tout cas qui sont dans des équipes qui font, par exemple, des pubs ou qui décident des lignes de vêtements à choisir, etc. J'ai un message pour eux, c'est descendre dans la rue, en fait. Parler à des vrais gens. Par exemple, des études ont montré, alors ça, c'est des études anglaises qui parlent de l'industrie de la mode anglaise, montraient qu'il y avait 80% des gens qui décidaient de la mode qui étaient des hommes. Et j'aime beaucoup les hommes. Je suis une vraie féministe dans le sens où je crois en l'égalité homme-femme. C'est-à-dire que si on donne quelque chose à un homme, on le donne à une femme. Si on donne à une femme, on donne à un homme. Mais le problème, c'est que s'il y a 80% d'une population, en l'occurrence les hommes, je suis désolée, moi je ne sais pas ce que c'est que porter un caleçon d'homme, et bien les hommes, ils ne savent pas ce que c'est de porter un soutien-gorge, par exemple. Et bien pourtant, pendant des centaines et des centaines d'années, ce sont les hommes qui ont pensé et qui ont designé et qui ont produit les sous-vêtements et notamment les soutiens-gorges. Et ça a changé il y a quelques dizaines d'années. Et bien depuis quelques dizaines d'années, et bien les soutiens-gorges sont plus confortables, en tout cas correspondent plus à nos demandes, à nous les femmes. Ça me, par exemple, il y a des choses en tant que femme que je ne peux pas comprendre en tant qu'homme, ou en tout cas j'aurais besoin d'un point de vue masculin pour le comprendre. Donc forcément, quand on pense à l'industrie de la mode, moi, mon message, c'est de dire, je crois en la diversité, mais c'est une croyance personnelle. Je crois que, comme disait Maya Angelou, que la diversité est une force, en fait. Mais ça, c'est une croyance personnelle. Ma croyance de psychologue et d'expert en marketing, c'est que si vous voulez vendre à tout le monde, il faut représenter tout le monde, en tout cas, il faut comprendre tout le monde. Et comprendre quelque chose comme la ménopause, eh ben, c'est quelque chose que même moi qui ne suis pas ménopausée, je n'ai pas compris avant de parler à des femmes, à beaucoup de femmes qui sont ménopausées, qui m'ont expliqué ce que c'était. J'ai toujours été outrée par le racisme, mais en tant que femme blanche née en France et voyageant entre l'Angleterre et la France, je ne sais pas ce que c'est que d'être non-blanc, en fait. Je ne sais pas ce que c'est que d'être asiatique pendant le Covid. Ou par exemple, j'ai des amis asiatiques qui me disaient que pendant le Covid, quand on était en non-confinement, les gens ne s'asseyaient plus à côté d'eux dans le métro. Ça, je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais vécu ça. Je n'ai jamais vécu une discrimination. Donc ça, si on lit pas, si on n'explique pas, on ne peut pas comprendre. Donc moi, le premier message, c'est d'un point de vue des marques, regardez les gens, en fait. Allez parler aux gens, essayez de les comprendre. Non seulement ça va mieux vendre vos produits, parce que plus on comprend les consommateurs, mieux on vend, mais en plus, les consommateurs seront plus heureux. Donc, ils vont mieux consommer. Peut-être pas plus, mais mieux. Donc, tout le monde est content, au final.
Donc, pour vous, par exemple, agir sur l'éco-anxiété en tant que marque, ça passe aussi par la communication, l'explication. Si, en tant que marque, on doit rassurer les consommateurs, ce qui est particulièrement prégnant et un rôle que les marques et que l'industrie en général doit empoigner en ce moment, c'est ça que vous recommandez ?
C'est drôle parce que quand on parle d'éco-anxiété, c'est quelque chose qu'on voit dans l'agroalimentaire, c'est quelque chose qu'on voit généralement chez les plus jeunes. Mais par exemple, quand je parle à mes jeunes consommateurs de la mode durable ou de l'aspect polluant ou pollueur de l'industrie de la mode, alors ils le découvrent pas, mais la mode, en fait, c'est tellement intime et c'est tellement lié à le sentiment de se trouver beau ou belle qu'en fait, je retrouve pas d'éco-anxiété liée à la mode. Alors, il y a de l'éco-anxiété, mais pas liée à la mode. Parce qu'en fait, un bout de vêtement, ça a jamais fait de mal à personne, en fait. Et en fait, si, et c'est ce qu'on appelle en recherche le fossé attitude-comportement. On sait, oui, l'industrie de la mode, oui, je sais bien que c'est polluant, pollueur, etc. Mais de vraiment comprendre et d'agir en fonction de cette information, il y a un énorme fossé, en fait, dans l'industrie de la mode. Donc, je pense que... est-ce que les marques peuvent agir là-dessus ? Déjà, c'est aux consommateurs de vraiment intérioriser ça, en fait. Vraiment, quand c'est... en avril, on aura un anniversaire très triste, l'anniversaire du Rana Plaza. Donc, c'est un bâtiment qui s'est écroulé sur des ouvriers faisant plus de 2500 blessés, plus de... Il y a eu 1127 morts, et je tiens à dire le chiffre précis. Et ces gens qui sont morts, qui ont été blessés, sont morts pour faire nos t-shirts à nous, Européens, Occidentaux, etc. Ça, on le sait. Par exemple, en avril, on va en entendre parler. Mais ce qui est important, c'est d'un point de vue des consommateurs, qu'ils comprennent vraiment ce que ça fait. C'est-à-dire des enfants... par exemple, ma fille de 8 ans comprend que et ne veut plus rentrer dans certains magasins parce qu'elle sait qu'il y a des petites filles de son âge qui ont fait des chaussettes, des collants, des chaussures. Et du coup, de ses 8 ans, la dernière fois, même moi, je dis allez, c'est pratique, on va dans ce magasin, on achète une paire de collants, ça va vite, c'est pratique, c'est pas cher, on y va. Elle n'a pas voulu rentrer, on était en plein Dijon, elle n'a pas voulu rentrer dans le magasin parce qu'elle dit, je ne veux pas rentrer parce que des enfants de mon âge ont fait des collants de cette marque. Et je me suis dit, du coup, elle n'a pas eu de collants. En tout cas, je suis allée chercher une option un peu plus durable. Mais même moi qui suis experte de la mode durable, j'allais rentrer dans le magasin parce que c'est pratique, il est tard, j'ai deux enfants, on y va. Et en fait, vraiment, cette intériorisation de la connaissance, elle est primordiale d'un point de vue des consommateurs. D'un point de vue des marques, il faut que les marques soient sincères. Et ça ne veut pas dire parfaite parce qu'en fait, c'est quasiment impossible d'être parfait. Mais par exemple, quand une marque de fast fashion met en gros sur dans des panneaux sur ces magasins, tous nos t-shirts sont en coton organique. Alors moi, je suis bête et méchante, j'ai vérifié. En fait, j'avais une heure à tuer, j'ai fait pas de problème, on était à Londres. J'ai fait tous les t-shirts sont en coton organique, j'ai vérifié auprès des assistantes, les pauvres assistantes, je suis vraiment relou. Elles m'ont dit, oui madame, tous les t-shirts sont en coton organique, pas de problème, j'ai une heure à tuer, j'ai fait tous les t-shirts. En effet, j'ai trouvé une petite ligne de vêtements où il y avait une vingtaine de t-shirts qui étaient en coton organique. Sinon, les trois étages du magasin, il n'y avait aucun t-shirt en coton organique. Donc en fait, d'un point de vue des marques, en fait, faut être sincère. Parce qu'en fait, la génération qui arrive, la Gen Z, les jeunes millennials, et puis ceux qui arrivent encore vont être pire ou mieux. En tout cas, moi, je trouve que c'est mieux. on pourra pas leur faire à l'envers, en fait. Vous leur cachez quelque chose, vous n'êtes pas sincère, hop, ils vont passer à autre chose. Donc, d'un point de vue des marques, il faut être sincère et en fait dire, par exemple, il y a beaucoup de startups qui veulent faire de l'éco-responsabilité, ou par exemple, une marque absolument merveilleuse, la marque de chaussures Veja. Vous allez sur leur site, et il y a un truc que je trouve formidable, ils vont sur leur site en disant, et vous allez trouver une page, ce que l'on fait bien, et vous allez trouver une page, ce que l'on fait pas bien. Par exemple, ils produisent une partie de leurs chaussures au Brésil. Vous allez dire, ben, c'est pas éco-responsable, c'est loin, c'est la France, Brésil, enfin, c'est quoi ce bazar? Mais ils expliquent pourquoi ils vont au Brésil. Ils expliquent qu'ils font travailler au Brésil. C'est absolument merveilleux. Si vous voulez vous former, en tant que consommateur, pour mieux comprendre, il y a un nouveau livre qui est sorti, La face cachée des étiquettes, par le collectif de Slow We Are, qui éduque les consommateurs à lire des étiquettes. Mais après, d'un point de vue des marques, il faut aussi jouer le jeu, en fait. Il faut dire, OK, on va tout mettre sur les étiquettes, on va chercher des labels éco-responsables pour pas mentir, en fait. Pour pas dire, tous nos t-shirts sont de coton organique. Non, non, mais non. Il y a 10 t-shirts, en fait.
Ouais, effectivement, et d'ailleurs, on voit qu'il y a une adaptation des discours et le greenwashing est de plus en plus subtil à détecter, notamment parce qu'il y a l'espèce de tribunal des réseaux sociaux poussé en particulier par les plus jeunes. Du coup, vous avez un avis sur... ce qu'on pourrait caractériser de dissonant chez la Gen Z qui sont souvent accusés d'aller militer pour des actions pro-climat, mais avec des Nike aux pieds, voilà, et d'être consommateurs de Chine, etc. Parce que vous disiez, je suis très d'accord avec vous au début de l'interview, que finalement c'est à eux d'éduquer les plus âgés et c'est aux plus âgés de comprendre à la fois leur mode de pensée et leurs outils. Donc, est-ce qu'ils sont vraiment dissonants tant que ça? Et quels discours et quels outils digitaux ou autres sont particulièrement adaptés pour leur parler?
Ouais, c'est quelque chose que, en tant que vieux dinosaure, je me pose souvent comme question, en fait. Déjà souvent, j'ai beaucoup de mes étudiants qui me disent « c'est lourd sur nos épaules, cette responsabilité ». Parce qu'en fait, non seulement on doit sauver la planète, bon, c'est pas un boulot facile, mais en plus, on doit en plus éduquer les plus vieux ou les vieux, comme ils nous appellent. Et en fait, moi, en fait, souvent, quand je parle à la génération des boomers, généralement, qui me disent « les jeunes, puis qui... » Généralement, j'écoute pas les phrases qui suivent, donc je veux pas forcément dire ce qui se dit. Mais toi, tes étudiants, les jeunes. Alors généralement, petit conseil pour les générations Z qui m'écoutent, généralement, quand un boomer ou quelqu'un de plus âgé de ma génération vous dit, vous les jeunes, vous arrêtez la phrase, vous dites, et quand t'avais mon âge, tu faisais quoi? Moi, par exemple, quand j'avais l'âge de mes étudiants, j'avais une voiture, prenais ma voiture pour faire 100 mètres, je comptais pas ma consommation de viande. Enfin, donc, je leur dis, moi, je vous dis ce qu'il faut faire maintenant, mais moi, quand j'avais votre âge, je le faisais pas. Et pourtant, à l'âge de mes étudiants, il y avait le discours de Monsieur Chirac, la maison brûle et on regarde à côté. Alors moi, j'ai écouté le discours et en effet, j'ai regardé à côté après. J'étais fan d'Arun Taziev, qui était un des premiers scientifiques à dire que vraiment la maison, là, elle était vraiment en train de brûler. Et j'étais fan de lui, et pourtant, j'ai pas remis en question ma mode de consommation. Donc, je trouve un peu d'alléger la lourdeur qu'on met sur le poids qu'on met sur les épaules des jeunes. C'est pas mal, en fait, de dire, en fait, OK, on a merdé. OK, ça c'est un fait. Comment nous tous ensemble, on va pouvoir aller dans une bonne direction? Boomer, Gen Z, et de pas mettre la pression toujours sur les mêmes. Et d'apprendre aux plus âgés à écouter les plus jeunes, en fait. Et c'est vrai que... Moi, je sais, par exemple, un jour, j'ai fait une émission de radio avec mes étudiants qui étaient en première et deuxième année. Et je leur ai dit, je suis très perturbée parce qu'en fait, vous me dites bonjour avec un écran entre nous. Est-ce que je peux regarder la couleur de tes yeux? Et ils m'ont regardé, ils n'ont pas compris. Et je leur ai dit, mais vous savez, vous êtes arrivés, vous avez sorti votre téléphone et ensuite, vous m'avez dit bonjour. Et ça me touche. En fait, juste de discuter, en fait. Et de dire, c'est vrai, ça nous a perturbé, toi, que t'es pas ton téléphone. Et en fait, de discuter, d'arrêter de mettre la pression toujours sur les mêmes, en fait. Et je dis ça même pour les vieux, quand on dit, les vieux, vous êtes chiants. Et pourquoi, en fait, dites-nous vraiment de discuter. C'est la première option. Et c'est quoi, rappelle-moi, pardon, la question que tu me disais.
Non, c'était, du coup, comment adapter son discours, mais c'est... Vous y avez répondu. Et la question, la première était, est-ce que vous avez un point de vue sur ce qu'on qualifie de dissonant, les dissonances cognitives de cette génération Z?
Eh bien, en fait, la dissonance, c'est vraiment comment régler cette histoire de dissonance? La première, c'est de s'écouter, en fait. D'arrêter de se refiler la patate chaude et de s'asseoir tous autour d'une table et d'écouter, en fait. Par exemple, moi, très longtemps, quand j'étais plus jeune, très longtemps, je voulais pas parler à ceux qui parlaient, qui votaient des partis extrêmes. Je leur parlais pas, je voulais pas. Tu votes un tel, ben hop, je te parle pas. Ben en fait, maintenant, je leur parle parce que je veux comprendre, en fait. Je veux comprendre comment on peut en arriver à voter ou à dire des choses profondément racistes. Je veux comprendre. Parce qu'en fait, la compréhension, c'est le début d'une ouverture et de solution. Ben la dissonance, c'est pareil, en fait. Bah déjà, je pense que ceux qui manifestent pour l'environnement portent pas forcément, enfin, ont pas forcément 150 paires de Nike aux pieds, mais c'est vrai que j'en ai certains qui sont capables d'être super écolo, de porter des Nike et de culpabiliser de porter des Nike. Et en fait, je pense encore une fois enlever un peu de pression, de dire, écoute, t'as combien de paires de Nike? Bon là, si la réponse est 152. Ah, je vais leur dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu en vendes un petit peu? Pas beaucoup, hein, c'est pas à peine de mettre de la pression, mais essaye d'en vendre une, deux. Ah, mais en fait, j'ai vraiment 100 paires et c'est ma collection, quoi. Ok, ben, garde tes 153 paires de Nike, mais chéris-les, vraiment, garde-les toute ta vie, garde-les comme un peu, même surtout les collecteurs, garde-les. Tu vas peut-être les filer à tes enfants ou à des neveux ou à des copains ou garde-les, prends-en soin. Par contre, est-ce qu'il y a moyen que tu fasses un petit peu plus de vélo que ta voiture? En fait, c'est vraiment tout un. On n'est pas parfait, en fait, encore une fois. Si on voulait sauver la planète, mais dans un mois, on y arrive. Tous ensemble, on arrête de fumer, de manger de la viande, et on roule tous en vélo, et on est tous beaux et belles tous les matins quand on se lève le matin. Non, cette dissonance, en fait, c'est d'une part ceux qui ont pigé le truc, ceux qui ont vraiment l'information, qui l'ont intégré, de dire « j'ai une paire au Nike au pied, et j'ai le sang d'enfant de 8 ans dans mes baskets ». Oh là, la pression de dire « ok, ouais, t'as compris, c'est super, génial ». Eh ben, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Est-ce que tu aimes les Nike? Ok, bon ben, essaye d'en acheter moins. Essaye de moins manger de viande. En fait, c'est tout un espace, tout un équilibre à trouver. Et surtout, arrêter de se refiler la patate chaude, en fait. De s'asseoir et de... Enfin, vraiment, comme je disais, par exemple, le racisme est quelque chose qui me rend absolument dingue. Et pourtant, j'arrive aujourd'hui à discuter avec des gens profondément racistes et de dire, mais juste essayer et d'avoir des discussions avec eux en disant, mais je comprends pas. Et qu'au bout d'arriver à une discussion presque où la personne en face commence à se questionner sur son raisonnement. Et ça, c'est une grande victoire de dire, d'essayer de faire comprendre. J'avais par exemple un homme de 60 ans qui m'expliquait par A plus B que mes étudiants étaient des feignants qui voulaient pas bosser parce que la jeunesse aujourd'hui, et en fait d'essayer de lui faire comprendre, de dire mais c'est quand la dernière fois que t'as parlé à un jeune avec des guillemets, donc lui il référait à des gens de 18 à 20 ans, je dis c'est quand la dernière fois que tu t'es assis, que t'as pris un café avec un jeune homme ou une jeune femme de 18 ans, que t'as parlé avec eux. Et il serait qu'en posant ces petites pierres, ces petites inceptions, et bien, en l'occurrence, cette personne-là a discuté avec des jeunes et a dit « mais j'avais pas compris, mais le stress, mais la pression, mais le… » Mais il avait trouvé un stage à plusieurs personnes, en fait, en disant « mais c'est dingue, mais… » Parce que lui, il avait la notion de stage, il l'avait pas trouvé. Il sortait de ses études, il a trouvé son boulot, puis il allait de boulot en boulot. Et en fait, en comprenant le stress de mes étudiants, il a trouvé plusieurs stages à mes étudiants. Et il a compris. Donc, je pense qu'en fait, cette dissonance, c'est déjà un début de prise de réflexion. Et au lieu de dire « ah, tu vois, tu portes des Nike, tu devrais aller manifester avec Greta Thunberg », de dire « ok, au moins, tu as pris une prise de conscience. Allez vers le positif toujours, parce que c'est tellement facile de voir le verre à moitié vide, en fait. Voir le verre à moitié plein et d'aller vers le positif et aller alléger les épaules de tout le monde, en fait. »
Complètement. Alors, je vais passer un peu du coq à l'âne, mais parce qu'il y a deux thématiques qui nous intéressent beaucoup et qu'on voulait creuser avec vous sur deux études que vous avez publiées. Cela dit, c'est quand même lié au Gen Z, puisqu'il s'agit des réseaux Instagram et TikTok. Vous faites partie des rares chercheurs qui ont étudié leur impact sur la psychologie. Et j'avais une première question qui était, pourquoi est-ce que c'est si peu répandu, alors que c'est quand même notoirement connu, que ça a un impact assez négatif, surtout depuis la pandémie et le coup d'accélérateur fait qu'on utilise de façon massive et de nombreuses heures ces outils au quotidien. Donc pourquoi si peu de travaux de recherche concernant ces réseaux, en particulier chez les jeunes?
Moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal de recherches là-dessus, notamment Depuis 10 ans, il y avait des travaux qui montraient l'aspect négatif des réseaux sociaux. Alors, généralement, c'était Facebook, hein, parce que c'était le réseau social principal. Et puis, en fait, depuis quelques années, on a montré, notamment depuis le Covid, on a montré qu'il peut y avoir un impact positif des réseaux sociaux. Il y a quand même quelques études. Généralement, les réseaux sociaux en recherche sont utilisés comme un outil. Ça veut dire qu'en fait, quand je vous disais, par exemple, dans une de mes recherches, j'ai utilisé des magazines de mode, hashtag dinosaure, mais pour moi, c'était les magazines de mode parce que c'était une population bah, particulière. On utilise beaucoup les réseaux sociaux comme un outil. Par exemple, on va analyser la représentation de telle population dans les réseaux sociaux. On va aussi aller chercher des mots-clés qui ont été utilisés dans un certain contexte. Donc, en fait, c'est un outil, en fait, hein, du matériel qu'on utilise. Donc, ça, c'est quand même de plus en plus utilisé. Après, le truc des réseaux sociaux, et je pense qu'en tout cas, je parle en tant que psychologue, on utilise quand même pas tant que ça, c'est vrai. Parce qu'en fait, dans les réseaux sociaux, on a ce côté anonyme qui fait que, en fait, c'est pas vraiment ce qu'on pense. Quand, par exemple, ben, quand on dit à quelqu'un de connu ou pas d'ailleurs, si tu redis ça, je vais te tuer. Ben, en fait, c'est un truc qui est lâché, qui est absolument horrible, ignoble, enfin monstrueux. Mais les gens le pensent pas vraiment parce que sous couvert d'anonymat et d'écran, ils vont dire des insanités horribles. J'espère que ça va s'arrêter avec justement le couperet judiciaire qui tombe de plus en plus, mais c'est pour ça qu'en fait, en tant que psychologue, on l'utilise, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, ça représente pas la vraie réalité, et que en tant que psychologue, on aime bien avoir des entretiens individuels, de dire « dis-moi vraiment ce que tu penses, en fait, on va passer une heure ensemble, tu vas tellement me dire ce que tu penses que je serai capable de comprendre ta façon de penser ».
C'est ce que vous appeliez dans l'étude le manteau protecteur d'Internet, c'est ça ? Alors, c'était peut-être une traduction littérale qui n'est pas la bonne. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, en synthèse, mais des résultats de cette étude sur la perception de soi sur Instagram ? En fait, c'était une étude dont l'objet était, l'objet d'étude était les profils Instagram et la manière dont les utilisateurs se percevaient, c'est ça ?
Ouais. En gros, on a voulu vérifier si les gens, en fait, dans l'idée où, comme je vous disais, on a besoin de 10 millisecondes pour percevoir quelqu'un. En fait, on a voulu vérifier si c'était pareil sur Instagram. On a pris plusieurs profils Instagram. Des profils qu'on a voulu différents exprès, donc soit qui montraient que des paysages, soit que des selfies, soit que des choses un peu artistiques, en disant est-ce qu'on est capable d'exprimer une opinion, de vraiment dire cette personne, je la perçois comme ça, comme ça. Et là, on a utilisé en plus du quantitatif, donc c'était même pas de l'exploration en disant dis-moi des mots-clés, qu'est-ce que tu penses. Et non, en disant on fait un questionnaire de personnalité, est-ce qu'on est capable de répondre au questionnaire en seulement 12 photos. Et l'occurrence, c'est que tout le monde a réussi à répondre et avait une idée une affirmation de dire cette personne est comme ça, basée sur 12 photos. Et ce qu'on a voulu comparer, c'est on avait donc, je me rappelle plus trop de combien de profils on avait testé, je crois que c'était entre 6 et 8. Et les 6 et 8 Instagrammeurs, en fait, des gens qui avaient ce profil, ont rempli eux-mêmes leur questionnaire de personnalité. Et bien sûr, on a trouvé qu'il y avait une énorme différence, en fait. En tout cas, certains s'étaient montrés tels qu'ils étaient sur Instagram et étaient perçus tels quels. Enfin, il n'y avait pas trop de dissonance, mais d'autres étaient complètement en dissonance entre ce qu'ils étaient eux, ce qu'ils montraient et comment ils étaient perçus.
Et aujourd'hui, vous parlez de l'usage positif des réseaux. En pratique, donc à la fois pour les citoyens et à la fois pour les marques, comment est-ce qu'on peut utiliser ces outils à bon escient ?
Alors là, je vais m'éloigner de la mode. Par exemple, post-hashtag MeToo a été ultra positif grâce aux réseaux sociaux. Par exemple, quand j'explique à mes enfants ou à des adolescents ou à mes étudiants un truc comme un... de dire moi aussi je me suis fait agresser sexuellement quand j'avais 20, 18, 10 ans, enfin c'était complètement improbable en fait, la notion d'agression sexuelle n'était pas sur la place publique et en un hashtag tout le monde a pu le dire en disant ouais moi aussi, et rien que ces quelques lettres ont été libératrices, merveilleuses. On se retrouvait, c'est Andrea Bescon qui dit on a retrouvé une sororité en fait, une fraternité, c'est-à-dire, mais moi aussi, mais toi aussi, mais en fait tout le monde. Waouh, ok. Pour donner un autre exemple, le Black Lives Matter Movement, et pourtant pour quelqu'un qui, alors j'étais pas experte du racisme, mais pour quelqu'un qui se considérait non raciste et qui était intéressé par la question, mais j'ai appris tellement de choses. J'ai appris des auteurs, j'ai appris des livres, j'ai appris des podcasts, j'ai appris ce que c'était d'être discriminée. Vraiment, enfin, c'est quelque chose que j'avais appris en cours en tant que psychologue, à laquelle je m'intéressais, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment appris, ce grâce aux réseaux sociaux. Et puis, ça va, là, je parle de sujets sensibles et graves, mais par exemple, je vous disais que j'étais maman, en trois clics, j'ai connecté avec des mamans sur les réseaux sociaux, et des mamans de jumeaux notamment, de dire comment on fait quoi, des mamans de jumeaux, comment on fait ça. J'ai connecté, par exemple, avec des femmes qui étaient ménopausées en disant « Moi, je ne suis pas ménopausée, mais en fait, je voudrais comprendre, dites-moi. » Et quand, alors, je ne suis pas jeu vidéo, mais quand je vois des plus jeunes que moi, soit dans ma famille ou soit dans mes étudiants, qui jouent en réseau, qui ont plein d'amis virtuels, qui n'ont jamais rencontré dans leur vie, mais qui jouent en réseau, c'est génial. C'est-à-dire qu'ils ont une vie sociale et en tant qu'individu, on a besoin d'une vie sociale, on a besoin d'être connecté aux gens. On l'a bien vu quand on était enfermé pendant le confinement. On a besoin de cette vie sociale. Et bien, pendant le confinement, je dis souvent mes étudiantes aux plus jeunes, enfin même, on avait une blague de... Ok, attention, c'est pas drôle, hein, mais on avait une blague de quarantenaire en disant « Vous imaginez si on avait été en confinement à notre époque quand on avait 18 ans ?» Mais on avait... Enfin, on avait des Nokia où on avait le droit à 30 textos par mois, quoi. Mais ça aurait été horrible, le confinement. Et là, heureusement, on avait des news de tout le monde. On pouvait se skyper. On pouvait se faire des FaceTime. On pouvait... je suis vraiment vieille. Mais on pouvait se faire des apéros avec des gens. Enfin, moi, j'ai fait des apéros ou des lunchs ou des goûters avec des gens sur toute la planète entière. Avec mes amis chinois, japonais, américains, français... C'était chouette, quoi, mais je me rappelle, on faisait le matin, on faisait du sport avec mes enfants, avec un coach australien, après on faisait la matinée d'école avec la maîtresse anglaise, après on mangeait avec papy et mamie qui étaient sur l'ordinateur, on mangeait tous ensemble, mais c'est grâce aux réseaux sociaux, à Internet, mais aussi aux réseaux sociaux, et c'est ça le côté positif. Après, par rapport à la mode, c'est un peu plus compliqué, parce qu'en fait, on a ces injonctions de beauté, ces injonctions de tendance en disant « tu ne seras beau que si tu portes ça ». C'est terrible, ça. Et ça, en plus, on sait, au fond de nos tripes, que c'est faux. C'est pas quelqu'un comme Anna Wintour qui va décider comment Aurore Bardet va s'habiller et si Aurore Bardet est belle. Je le sais sur papier. Mais en fait, Anna Wintour décide de comment Aurore Bardet va se sentir belle ou beau. Alors, moi, non, parce que je me suis détachée. Mais en fait, on a quand même cette injonction, en fait. Quand, par exemple... des designers que j'adore comme Simon Porte ou Jean-Paul Gaultier, c'est vrai que quand je regarde leurs défilés, notamment les défilés Jacquemus, et que je me regarde après dans le miroir, je me vois pas forcément, et forcément c'est un petit, mais après avec le recul, il faut avoir du recul en fait pour se détacher un peu des réseaux sociaux et de cette injonction de beauté et de dire non mais en fait c'est pas parce que je porte pas une robe Jacquemus. Ses premières collections, c'était absolument magnifique, mais il avait des top modèles qui étaient très grandes et très longilignes, qui étaient absolument parfaites pour sa marque. Mais moi, je ne rentrais pas dans les robes que je voyais. Je disais, moi, je peux rentrer une cuisse et c'est tout. Mais après, il est allé très loin dans la diversité, Simon Porte. Mais dans ses premières collections, je me voyais pas. Mais après, il faut être capable de faire la différence en fait, entre le travail absolument magnifique, bienveillant et de toute beauté d'un designer et ce qu'on voit dans le miroir et de dire aujourd'hui je suis capable de voir Jacquemus, ses créations, de dire c'est absolument merveilleux et de me regarder dans le miroir en disant et je suis super canon. Et en fait c'est ce travail là et les réseaux sociaux aujourd'hui avec la mode, ça nous aide pas forcément.
Merci beaucoup, je laisse la parole à Coraline.
Ben, vous avez été très généreuse en référence pendant tout l'épisode, mais on en veut encore. Est-ce que vous avez un livre, un site, un podcast ou autre référence pour se cultiver sur votre sujet d'expertise?
Alors, au niveau des livres, en français, je conseillerais n'importe quel livre d'Audrey Millet, qui est une historienne, une sociologue de la mode, qui écrit merveilleusement bien et qui a ce côté... activiste doux, ça veut dire qu'en fait c'est une vraie activiste qui a des valeurs, des belles valeurs et qui écrit magnifiquement bien. Donc n'importe quel livre d'Audrey Millet, n'importe lequel. Vous m'avez dit au niveau des podcasts, le vôtre, Et ça, je l'avais préparé avant que vous me posiez cette question. J'aime beaucoup votre podcast et j'aime aussi beaucoup le podcast qu'on appelle L'Empreinte. J'aime beaucoup. Et vous m'avez dit site internet également. Site internet, je mettrais le site internet de Fashion Revolution France, qui est une branche de Fashion Revolution, qui est un site, une organisation caritative qui regroupe toute information sur comment rendre cette industrie de la mode plus belle, plus éthique. Et ils ont une branche en France, Fashion Revolution France, et il y a beaucoup d'informations qui peuvent être vraiment super intéressantes.
Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous aimeriez qu'on reçoive dans notre podcast?
Audrey Millet, je vais me répéter, mais elle est absolument merveilleuse. Et par contre, si vous invitez Simon Porte et Jean-Paul Gaultier, est-ce que je peux venir, s'il vous plaît, pour juste les écouter? Et je trouve qu'ils ont une... Ah, Olivier Rousteing aussi. C'est un trio d'hommes qui sont absolument merveilleux, innovants, bienveillants surtout. Je trouve qu'ils ont ce côté bien... C'est un mot qui sort jamais dans leur interview, mais ces trois personnes, ces trois hommes, je les trouve vraiment bienveillants. Et une petite table ronde avec ces trois hommes et Audrey Millet, ça serait merveilleux.
Est-ce qu'il y a une rencontre qui a permis de changer votre vie professionnelle?
Ok, alors je vais donner deux réponses et attention, ça va être cucu la praline, alors asseyez-vous bien, vous moquez pas de moi. En fait, la rencontre qui a changé ma vie professionnelle, c'est une rencontre avec mon mari et mes enfants. Ok, cœur sur moi, je sais. Mais en fait, parce qu'en fait, j'ai tellement... J'aime tellement mon travail qu'en fait, il n'y a pas de barrière entre... alors, si j'ai une vie privée, je ne raconte pas ma vie à mes étudiants. Quoique, ils me diraient, là, s'ils m'écoutent, ils diraient, quoique des fois. Mais en fait, il n'y a pas... J'aime tellement mon travail qu'en fait, quand on se lève et qu'on fait un travail qu'on aime, en fait, lundi, samedi, il n'y a pas tellement de différence pour moi. Alors, je ne travaille pas les week-ends, mais un lundi, c'est aussi kiffant qu'un samedi, et ça, c'est chouette. Et ça, je l'ai grâce à mon mari et mes enfants. Mon mari qui est dans le sport de haut niveau et qui est aussi dans cette notion de bien-être et de performance, et qu'on a vraiment ce côté de... pardon, j'ai mal parlé, mais vraiment, kiffe ta vie, en fait. Vraiment, fais un truc que t'aimes. Et quand je me posais des questions en disant, est-ce que je devrais aller vers ce truc qui est la psychologie de la mode? C'est bizarre. Il dit, lis, est-ce que ça te plairait? Il m'a un peu poussée, même en tant que jeune parent de deux bébés. On était vraiment fatigués. Il me dit, mais vas-y, est-ce que t'aimes ça? Mais vas-y, en fait. Il n'y a pas de limite, en fait. Donc, ouais, je dirais mon mari, puis mes enfants. Qui du haut de leurs 8 ans me questionnent, me disent mais pourquoi tu fais ça, mais non, on va pas rentrer dans ce magasin, ce que tu m'as dit qu'en fait des filles de mon âge faisaient écolant, je veux pas y rentrer maman. Ils me remettent toujours dans le droit chemin, donc ça c'est vraiment un premier type de rencontre. Et il y a quelqu'un qui a changé ma vie, et comme ma vie c'est mon boulot, etc. C'est Alexandre Jardin, qui est romancier, qui est auteur, parce que c'est quelqu'un qui est complètement qui est fou de la vie et qui est fou. En fait, ça veut dire qu'il n'a pas de limite dans sa pensée, il n'a pas de limite dans sa vision de l'amour, de la vie. Et en fait, ça m'a... j'ai lu ses bouquins depuis que j'ai à peu près su lire et que j'ai trouvé un de ses romans, que j'ai toujours... C'est vraiment des romans, en fait. Généralement, des romans d'amour ou des romans de vérité. Et en fait, ce côté complètement fou de vérité, ça m'a vraiment imprégné dans ma vie professionnelle, en fait. Ce côté vérité est très, très imprégné dans mes enseignements et dans ma recherche. Donc, je dirais Alexandre Jardin.
Ok, merci. Est-ce que vous savez à peu près à quoi vous ressemblez les consommateurs en 2050?
Ah, alors, dans mes rêves les plus fous, ce sont des consommateurs qui sont tous consommateurs de gastronomie, de très peu de viande, mais de la très bonne viande, que de la mode durable. Mais ça, c'est dans mes rêves les plus fous. En vrai, les tendances montrent et mes recherches montrent qu'en fait, on va aller vers une dichotomie de la consommation. Ça veut dire qu'on va avoir... C'est comme la société où on sait que les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres. En fait, on va avoir cette séparation, en fait. On va avoir des gens qui s'habillent en ultra fast fashion, plus en fast fashion, en ultra fast fashion, en mangeant de la junk food et en roulant en voiture. Alors, je dis pas que rouler en voiture, c'est mal, parce qu'il y en a qui sont coincés de par leur vie professionnelle et doivent rouler en voiture, mais vraiment, je parle des gens qui font 100 mètres en voiture, comme moi, je le faisais à 18 ans. Ça va être un type de consommateur. Et ces consommateurs-là, je pourrais leur expliquer, leur faire lire mes livres, vous faire écouter les podcasts. ça va rentrer par une oreille, ça va sortir par l'autre. Et après, je vais avoir un autre type de consommateur qui vont aller vers de la mode durable. Donc, tout type, ça peut être du luxe, ça peut être de la qualité, ça peut être de la seconde main, ça peut être du minimalisme. Des gens qui vont très peu manger de viande, qui vont plus du tout avoir de voiture, qui vont avoir un mode de vie super écolo, très éthique, très en remise en question. Et on va avoir cette dichotomie, en fait, de consommation.
Avec une petite majorité quand même ou vraiment 50-50?
Ah, allez, je suis une optimiste. Je pense qu'il y aura une majorité de consommateurs éthiques et avec des valeurs.
Ok, bon bah hâte de 2050 alors. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut retrouver vos travaux, même si j'ai cru comprendre que pour l'instant c'était un peu pas très accessible pour n'importe qui.
Si vous tapez mon prénom, si vous tapez mon nom et mon prénom Aurore Bardet sur Google, vous allez très rapidement arriver sur ma page de mon école, BSB. Et dans cette page, il y a les titres de mes articles et mon email. Donc en fait, si vous voulez vraiment lire n'importe lequel de mes articles, vous m'envoyez un email et je renvoie l'article. Et on peut même en discuter avec n'importe qui m'écoute et qui veut parler avec moi. Il y a aussi un site internet qui s'appelle Google Scholar, où là, vous tapez n'importe quel nom de chercheur et vous pouvez avoir leur page avec toute la liste d'articles. Et j'espère que d'ici septembre, si vous tapez Aurore Bardet sur Internet, j'aurai une page Internet où justement j'aurai la liste de mes articles, mais aussi par article les 3-4 idées où il faut retenir, des idées grand public, pas une explication scientifique de mes travaux scientifiques, mais vraiment dire ces articles montrent ça, une plus grande compréhension de mes travaux de recherche.
Ok, on vous le souhaite aussi. Et on a hâte de lire ça. Merci beaucoup, Aurore. On va mettre toutes les références, y compris vos travaux et la page que vous venez de mentionner dans les notes de l'épisode. C'était vraiment un bonheur de vous entendre parler, au plaisir de vous entendre davantage sur des tables rondes ou pourquoi pas sur un autre épisode de podcast un peu plus vertical quand vous avez des publications qui sont d'actualité. On vous souhaite des bons Playmobil, c'est ça le projet de la soirée? une bonne soirée Playmobil. Et puis bonjour à vos enfants, à votre shadow partner de Marie et à bientôt à Paris, on l'espère. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire signe si vous passez. On vous accueille avec grand plaisir.
Bon, merci beaucoup pour votre temps. Je savais que ça allait être super, mais c'était un vrai bonheur. Merci beaucoup.
Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous avez appris des choses et apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email ou de bouche à oreille, et de laisser un commentaire iTunes 5 étoiles, ainsi que de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com